Salut à tous et bienvenue sur le site du service après-vente de la F1 et sur fanf1.com pour démarrer, lancer cette saison 2012 lors d'une émission spéciale du SAV de la F1 qui reviendra donc sur l'actualité de l'intersaison, sur les perspectives que nous pouvons attendre de cette nouvelle saison de Formule 1, la quatrième que va suivre avec vous le service après-vente de la F1. Pour cette occasion, comme l'année dernière, nous avons décidé d'organiser une émission un peu spéciale avec certains d'entre vous que nous allons accueillir dans quelques instants. L'idée de cette émission étant de poser des questions auxquelles ils vont répondre, marquer des points peut-être, pour gagner une place, pas au concert de Britney Spears malheureusement.
Ah, de toute façon, elle chante pas voilà. Dans ses concerts.
Mais pour gagner une place, pour participer au service après-vente du Grand Prix d'Australie, voilà, s'ils sont disponibles, bien sûr.
D'ailleurs, nous non plus, on ne chante pas pendant...
C'est vrai. Mais on pourrait, Shinji, c'est pas inenvisageable.
Non, mais pas des idées comme ça dans la tête des gens.
Donc, avant toute chose, bienvenue à vous tous, bienvenue à toi, Shinji, bonne saison.
Bonne saison, Dino.
Et nous allons dire bienvenue à nos trois candidats. Bienvenue à notre futur chroniqueur, Gus Gus, que vous retrouverez dès la semaine prochaine dans notre première émission normale de la saison.
Bonjour.
Si tant est qu'un SAV puisse être normal.
Normal.
Oui. Et bienvenue à nos deux réunionnais, hein, puisqu'on est quasiment international aujourd'hui, hein. Bienvenue à Cédric et bienvenue à Eric. Va falloir bien se dégoupiller pour pas mélanger les pinceaux.
Ah, salut. Ouais, bonsoir.
Il manque un Frédéric quand même pour faire les trois. Hein.
Donc oui, comme tu disais Dino, la formule de cette année, ça va être la même que celle de l'année dernière. Donc on va vous poser des questions qui vont vous rapporter des points. Il y a à peu près combien de questions, Dino ?
Une quinzaine.
Voilà, une quinzaine. Il y a aussi des challenges. Alors, des challenges, souvenez-vous, l'an dernier, c'était donc Dino qui posait les questions et moi, j'essayais d'y répondre. Eh ben, on s'est dit, on va changer de sens. Donc, il va y avoir quelques petits challenges, hein, pendant l'émission où, bah, là, cette fois-ci, c'est Dino qui pourra peut-être piquer des points à nos concurrents.
Trop facile. Ça me fait pas peur.
Ouais. Vous
êtes pour les mecs ?
Ben ouais. Parti.
Juste avant de commencer, des petites déclarations à faire avant de mourir ou je sais pas, de nous faire kidnapper par les rebelles réunionnais.
Non, c'est pour ça qu'il faut quand même que je se dépêche pour qu'on aille dans la rue.
Quoi. Oui, voilà. petite information essentielle avant de commencer, des pilotes, des écuries dont vous êtes fan, qui pourraient expliquer donc potentiellement des erreurs de jugement ou ce genre de choses.
Allez, Forza Ferrari.
Ah, bravo.
Alors plutôt McLaren.
Ah vrai. Merde.
Je quitte le plateau, monsieur.
Envie de vomir.
Moi, je suis plutôt l'optimiste.
Ah bah voilà. Ça y est. Bon, on va commencer avec une première question. Et cette première question vous rapportera un point plus un point.
Ça fait combien ?
Vous pouvez remporter deux points.
Voilà. Oh, merci Gigi de cette précision.
C'est une précision pour les gens qui seraient un peu nuls en maths. Voilà.
Donc cette première question est la suivante. Qui aurait déclaré, et à quel propos, ici votre capitaine qui vous parle, votre vol est prêt pour l'embarquement.
Et ce n'est pas le capitaine Costa Concorde.
Non, parce que le bateau ne volait pas.
Mark Webber.
Non.
Ouais. Est-ce que...
C'est le patron Virgin.
Non, c'est pas sur Virgin, non.
Mais... Ah, c'est pas l'histoire de Paris entre Virgin et...
Le Paris dont on n'a pas de nouvelles, mais...
C'est vrai, c'est...
Mais non, ça n'a aucun rapport avec ni Virgin, ni Caterham, ex-Team Lotus, ex-Lotus F1 Racing.
Il y a des indices ou pas, là ?
Non, il n'y a pas d'indices.
Ok.
C'est à vous de poser des questions, on vous dira oui ou non.
Donc, est-ce que c'est quelqu'un
qui...
C'est un pilote.
Mark Webber, non.
Gus Gus ?
Non, mais je voulais savoir si c'était quelqu'un qui avait des intérêts en F1, mais comme c'est un pilote... Ben...
Il a des intérêts en F1.
Non, c'est un pilote.
C'est un pilote. On va pas non plus donner trop d'indices.
Est-ce que c'est Niki Lauda ?
C'est Niki Lauda, ouais.
Non.
C'est vrai, il a déjà dû le dire parce qu'il pilote des avions.
Oui bah oui.
Il a même une compagnie.
Oui.
Quoi, Fernandez ?
Non, Fernandez, une phrase sans Caterham, c'est pas une phrase.
Oui.
Trulli ?
Non, c'est pas Trulli. Mais on se rapproche.
Kovalainen ?
Non, pas Kovalainen. Mais on se rapproche.
Oui.
Petrov ?
Non, c'est pas Petrov. Donc, je rappelle la question. Qui aurait déclaré et à quel propos, ici, votre capitaine qui vous parle, votre vol est prêt pour l'embarquement ? Pour vous donner un indice, c'est vrai qu'ils ont tous un point commun. Kovalainen, Trulli et Petrov. Qui est lié à l'auteur de cette question ?
C'est Luigi ?
Non.
Attends, si tu confirmes que c'est un pilote ?
Ah ouais, je confirme que c'est un pilote.
C'est un pilote.
Ah.
Ah. C'est une déclaration qui aurait été faite, puisque on ne l'a que d'une autre source, mais qui aurait été faite en fin novembre, début décembre. plutôt fin novembre.
Qui visiblement a fait le tour de la Terre.
Oui.
Effectivement. Pour tout vous dire, c'est un pilote qui s'adresse à un autre pilote. Et c'est l'autre pilote qui nous rapporte les déclarations du pilote.
Celui qui a reçu le...
Voilà.
Se pourrait-il que ce soit son copilote ?
Non, non, c'était pas son copilote.
Mais il pourrait un jour, peut-être.
Peut-être.
Raikkonen.
Non.
Kubica ?
Non.
Non.
Mais on se rapproche.
On se rapproche.
Oui, c'est un pilote qui n'a qu'un bras. Non.
C'est pas Hamilton.
Non, mais on se rapproche.
Non, mais on se rapproche.
Tous ces pilotes.
Button ?
Non. C'est loin un peu.
On va tous les faire. On va tous les faire, je crois.
Pour être subtil.
Non, j'aime bien quand vous les faites tous, sauf celui-là.
On va y arriver.
Alonso.
Bravo, c'est Cédric qui vient de dire Alonso.
Ouais, ouais.
Cédric, tu gagnes un point. Tu as trouvé Alonso.
Tu gagnes le premier point de l'année.
Maintenant.
Ouais, j'y avais pensé au début, mais j'ai un peu hésité, quoi.
Maintenant, pourquoi Alonso aurait-il déclaré, ici votre capitaine qui vous parle, votre vol est prêt pour l'embarquement?
Ah ouais. Il a dit. Attends, il a pas dit ça quand il était au salon. Enfin, ouais, ça me revient là.
Oui, en effet. Pour tout vous dire, en fait, il ne l'a pas dit. Il l'a écrit.
C'est sur son acte de divorce ?
Non. Mais monsieur, nous ne faisons pas dans le pipette dans cette émission. Bon, à part quand Lewis fait des combinaisons en latex.
Okay. Voilà.
Ah oui. Attends, je crois que c'était en rapport quand il devait se rendre au gala en Inde.
Oui, voilà, tout à fait. Et donc, il l'a envoyé à qui ?
Attends, si je ne me trompe pas.
Qui est allé au gala en Inde à sa place ?
Bah, c'est facile.
Ah non, Arce, c'est Dominique Ali,
non ?
Non,
Vettel.
Non, c'est la Vettel.
Non,
non.
Non, à sa place ?
Oui, à sa place. C'est-à-dire que il devait aller au gala au moment du Grand Prix du Brésil, avant le départ. Il devait aller au gala, puisqu'il y a une règle qui fait qu'il devait y aller.
Ouais.
Mais à la fin du Grand Prix du Brésil, il ne devait pas y aller.
Plus.
C'est quelqu'un d'autre qui a piqué sa place.
C'est à Weber.
C'est à Weber.
Ah.
Voilà. Donc, je vais donner un demi-point à Eric et un demi-point à Cédric. Oui, parce qu'on est des fous. On se prend pour la FIA, on partage.
Ouais.
On sort des demi-points. Voilà.
D'être généreux.
Donc, effectivement, hein, c'est un SMS qu'aurait envoyé Alonso à Weber pour un peu lui dire, parce que ça fait un peu chier les pilotes d'aller en Inde et compagnie, pour dire, ici, votre capitaine qui vous parle, le vol est prêt à partir, voilà, parce que Weber lui a pris sa troisième place au Grand Prix du Brésil.
Les trois premiers.
Parce que, voilà, au gala, ce sont les trois premiers qui allaient en Inde.
D'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, on a dit qu'Alonso avait fait exprès de perdre, enfin de finir quatrième.
Pour pas aller au gala ?
C'est pas son genre.
Ouais, ouais. Non, non, mais sérieusement, hein. Enfin, du moins, c'est une rumeur.
Ça se comprendrait.
Ouais.
Ben ouais.
Enfin, quand même, troisième place, quand même.
Ouais, voilà, quand même, le mec, il dit, oh non, j'ai pas envie d'être troisième, je vais être quatrième cette année. J'ai jamais été quatrième, je le sens bien.
Ouais, c'est pas du tout un type très ambitieux, donc
oui, voilà.
C'est tout à fait le type qui se contente d'une quatrième place.
Ouais, tu me diras, il s'est bien contenté d'être numéro 2 chez McLaren. Il s'est barré. Et donc, ça nous fait 1,5 point pour Cédric. Je sens que je vais le regretter, ce demi-point que je viens d'accorder. Et 0,5 point pour Eric. Bon voilà, Eric, t'as l'obligation de remarquer des points parce que quand même finir une émission au total après plein de questions en disant j'ai que 0,5, ça fait un peu la rage quand même.
Ouais, mais
c'est un peu moche.
Remarquer,
pour l'instant, c'est moi qui ai le plus la rage quand même.
Non, mais vaut mieux finir avec 0.
Vaut mieux être complètement nul pendant toute l'émission
que être un tout petit peu nul.
C'est vrai que c'est un nouveau record.
Pour le moment, Eric, c'est la Léla Lombardi du SAV. C'est notre deuxième fille à nous.
Deuxième fille ?
Oui, parce qu'on a, on a déjà eu une fille au Brésil.
Oui.
La meilleure émission du monde. Ah, Maëlle, quand tu veux.
Membre de droit des émissions du SAV.
Voilà,
hein,
automatiquement. Dès qu'elle veut, elle vient. Donc c'est un petit peu l'occasion aussi pour vous messieurs d'avoir un peu votre opinion sur la saison 2011, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu. Je sais qu'on a reçu Gus Gus, je crois que c'est à Abu Dhabi.
Oui.
Et Eric et Cédric, on vous a pas reçu, mais voilà, avoir votre impression sur 2011.
2011, ça a quand même été l'année Vettel quoi, hein, on a vu un peu
un
peu que lui.
Oh.
Ouais, pareil, ouais.
<T'es> calme.
Après, il y a eu quoi ? Il y a eu l'histoire du Kers et puis de l'aileron ajustable là qui bon, ça fait quand même un peu de spectacle, quoi. C'est vrai que ça manquait ces dernières années, quoi.
Et toi, Cédric, donc ?
Bof, bon, comme toujours, hein, bon, c'était, je dirais, moyen pour moi. Hein. Parce que pour moi, c'est comme s'il y avait deux championnats hein, pour voir deux Vettel, mais c'est tout à fait normal. Mais voir Vettel dominer le championnat du début jusqu'à la fin, pour moi, il y avait deux championnats. Grosso modo, bon, c'était regardable. comme d'habitude, mes circuits favoris, j'ai plutôt aimé. Les courses ont été plutôt, je dirais bien, comme Spa. Hein. Pour moi, c'est mon préféré. Ensuite, tout ce qui est artifice, DRS, Kers, ça, franchement, je ne savoure pas du tout.
Ah.
J'aimerais bien que ça disparaisse en de ces quatre.
Gardons les artifices pour le 14 juillet.
Non, mais j'espère que, je veux dire, que quand même cette année, pour parler de 2012, j'espère qu'elle ne ressemblera pas à 2011, quoi. Que les écarts sont beaucoup plus serrés, qu'il y ait un peu plus de spectacle, que le titre soit un peu plus méritant, je dirais même.
Ouais, mérité dans le sens disputé.
Oui, oui, voilà.
Oui, oui.
Donc on passe à la question suivante, messieurs.
Oui, bien sûr.
Donc une question qui vaudra 2 points. Quel projet de loi défend le député italien Paolo Grimoldi ?
Qui a fait des études de juriste ici ?
Tu peux répéter la question, s'il te plaît ?
Bien sûr. Quel projet de loi défend le député italien Paolo Grimoldi ?
Ah si, je sais. Nous interdisons à tout Google, Yahoo et compagnie.
Non, bien sûr, mais je sais, c'est pour passer Monza en monument historique ou quelque chose dans le genre. Et ça accorderait à Monza 500 000 euros par an ou je sais pas quoi, oui, quelque chose dans le genre.
Jusqu'en 2014.
Exactement, il veut faire de Monza un monument national italien.
Oui.
C'est vrai que c'est...
Oh, je suis pour.
Au niveau du sport, c'est clair, hein, c'est un monument, donc pourquoi pas après tout.
Ok, d'accord. c'est juste pour avoir des subventions. C'est un moyen d'avoir des subventions, quoi.
Oui, c'est un moyen d'avoir des subventions aussi. Après, c'est aussi un député du Nord, donc de la Ligue du Nord, donc d'un parti plutôt nationaliste, nationaliste.
Plutôt, ouais.
Donc il y a aussi des élections qui vont approcher bientôt, donc c'est aussi un moyen d'essayer de montrer qu'on s'intéresse à la région, de la même manière que par exemple François Fillon s'intéresse beaucoup au Mans, hein, avant d'aller se porter candidat ailleurs, comment.
Oui.
mais voilà, donc c'est vrai que c'est 500 000 euros jusqu'en 2014, ça permettrait 500 000 euros jusqu'en 2014. Bon, c'est un projet de loi qui a très peu de chances de passer, parce qu'aujourd'hui l'Italie peut pas se permettre de dépenser 500 000 euros par an pour le circuit de Monza. Et l'objectif, c'était surtout la rénovation, officiellement la rénovation des parties historiques de Monza, notamment
de l'anneau notamment.
Parce que quiconque a eu l'occasion de voir Monza et de visiter l'anneau sait qu'il a peut-être besoin d'un petit peu de réflexion. Voilà, notamment sur une partie où c'est juste avant la chicane Ascari, où l'anneau passe au-dessus de la piste et le pont, ça fait plusieurs années qu'il y a des morceaux de béton qui se défont au passage des voitures, etc. Et le pont constitue un véritable danger. Donc voilà, ça fait partie des lois qui ont aussi une vocation électorale assez évidente.
Bah ça, il doit avoir une sacrée peur à chaque fois qu'il passe sous le pont. C'est déjà pris un ressort.
Non, ça va, maintenant il n'y a plus Rubens. Il n'y a plus Rubens, il n'y a plus Brown Grand Prix, donc lui ça le rassure. Non, voilà, vous, si vous aviez.
Ils ont pris exemple en Allemagne pour sauver le Nürburgring.
Oui, mais non, mais le Nürburgring, non, mais non. Le Nürburgring, maintenant il roule dessus quand il neige. Je sais pas, alors sincèrement, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais il y a un moniteur de l'école du Nürburgring de monoplace qui s'est amusé, là quand il y a eu la grande vague de froid il y a quelques semaines, qui s'est amusé à faire un tour du Nürburgring en monoplace. Et ce qui est très rigolo, c'est que vous, au départ, vous dites, ah, il faut un tour dans la vidéo, c'est le Nordschleife sous la neige, et vous voyez le mec démarrer sur le circuit de F1 actuel. Donc vous dites, ah ouais, bon, d'accord, il fait un tour du circuit de F1, etc. Puis à un moment donné, vous arrivez à la dernière chicane, là, et puis hop, il prend, au lieu d'aller à droite vers les stands, il prend à gauche.
Il va à gauche.
Avec des pneus de route. Alors, c'est très rigolo, c'est une monoplace avec des pneus de ma Clio, par exemple. ça vaut quand même le détour.
Ça peut être une chose.
Par contre, ceux qui auraient pu faire l'effort de faire une loi pour protéger un circuit, c'est justement en Allemagne, c'est pour Hockenheim, parce que je sais pas si vous avez vu des photos, mais là, la nature, elle a repris ses droits, quoi. Il y a plus du tout de circuit, quoi.
Bon, même déjà, enfin, moi, dès le départ, enfin. Voilà. Je dis qu'il aurait peut-être fallu garder cette portion-là plutôt que de demander à Herman Tick de s'en occuper.
Oui.
Et donc, justement, vous, si vous aviez à classer au patrimoine historique mondial ou au patrimoine historique national des circuits, lesquels seraient-ce ? On va faire d'abord national pour la France et puis mondial pour le monde.
Mondial, moi, je dirais Spa.
Hein. Oh, celui-là, il est d'office.
Ensuite, en France, je sais pas. Moi, j'ai plutôt un petit faible pour Magny-Cours.
Non, mais ce qu'il faut classer, c'est Magny-Cours et l'autoroute qui est à côté. Bah ouais, sans problème. On va essayer de le tourner les deux.
À peine construite, elle est déjà classée.
Ah oui, il faut la protéger. Elle a tellement été dure à venir, celle-là, que. Toi, Cédric? Eric. Je savais qu'on allait se mélanger.
Ouais, bon. Ouais, pour moi, ouais, bon, pour, au niveau mondial, pareil, Spa, pour moi, ouais, c'est le plus beau. Et en France, en France, il n'y en a pas, quoi.
Même dans les vieux. Enfin, je sais pas, par rapport à France, moi, je classe les
charades. Ah, dans les vieux.
Ouais, charades.
Il y aurait, une Dijon.
Ah oui, une Dijon. Ah oui. Ah, celui de Normand.
Ouais,
ah, Normand.
Avec l'idée,
Normand, les desserts, il faudrait qu'on le classe.
Ouais, ça peut tuer des gens, ouais.
Vous êtes régionalistes, messieurs. C'est
mais oui. Mais oui, on veut tuer des pilotes.
Et à l'échelle du monde, donc, Spa, Gus, toi?
Suzuka, par exemple, déconstruire toutes les centrales nucléaires autour.
Oh, il y en a déjà une de moins.
Et ouais, en France, ouais, j'aurais plutôt dit Reims ou Charade ou des trucs dans le genre.
Bah moi, ça serait en France Charade et puis enfin les graviers en moins. Et puis Helmut Marco, regarde, un souvenir moyen, mais.
Ça lui a porté le mauvais œil.
À l'international, Monza. Moi, j'ai eu le plaisir d'y aller et c'est ça. Voilà, c'est juste waouh. Voilà.
D'ailleurs, pour en revenir au circuit, je pense que dans quelques années, celui d'Austin pourrait être classé. Hein, parce que je l'ai vu en image de synthèse, il a l'air pas mal. Hein, c'est un circuit rapide.
Ouais.
Il a l'air bien.
Bah, sur le site, papier, ouais, vous avez une vidéo sur savf1.fr. Vous avez une vidéo faite à partir d'un jeu. Ça doit être, je sais pas, l'un des jeux qui est sur ce PC. Vous avez une vidéo qui est assez intéressante.
Ouais.
Et toi, Chizu, tu mettrais quoi?
Spa, forcément.
Vous êtes pas original. Moi, je veux classer Abu Dhabi.
Le Ferrari avec World.
Juste le Ferrari World et le virage qu'il y a au qui donne.
Sinon, si peut-être un autre que Spa, ça serait Interlagos, qui est un peu vieux et
ouais. Très voilà. Vieux.
Ouais. Puis au niveau national, ouais, pourquoi pas Reims, c'était rapide. Ou le circuit du Mans, mais c'est pas de la F1.
Oui.
Le grand, hein, circuit du Mans.
Pas le Bugatti. Oh. Pas le Bugatti, il est bien. Donc au classement, ça nous fait 2 pour Gus qui prend la tête, 1,5 pour Cédric et 0,5 pour Eric. Mais heureusement, Eric, tu as une possibilité de te rattraper avec la prochaine question. Et cette question peut vous rapporter 2 points plus 1. Cette question est simple, messieurs. Quand risque-t-on de revoir l'extraordinaire?
C'est un nom de sous-marin?
Non.
Ça pourrait, mais c'est pas ça.
Quand risque-t-on de revoir l'extraordinaire?
Donc il y a 2 points pour me dire quand. Et puis, il y a un point pour une petite question bonus qui viendra après.
Eh bien, jamais, puisque c'est la fin du monde cette année. Voilà, merci messieurs, au revoir.
Voilà, on va te retirer 3 points.
tu parles d'une personne, non?
Non.
Non, d'accord, c'est déjà ça. Un événement?
Non.
Non.
C'est un surnom qu'on donne à quelqu'un?
Non, puisque ça n'est pas quelqu'un.
Cette année?
Oui, cette année, il y a des chances qu'on le revoie cette année.
C'est possible, oui, mais c'est pas obligatoire.
On pourra même le revoir assez rapidement, d'ailleurs.
Tu pensais avoir contourné la question?
C'est le surnom du circuit de Bahreïn?
Non.
On pourrait le revoir cette année, peut-être?
Non, le Bahreïn, c'est l'ordinaire.
Donc, c'est un circuit?
Non.
Non, non, d'accord. Schumacher qui gagne le titre?
Ah! Ça serait pas extraordinaire, ça serait monumental. Mais ce n'est pas ça. Ah.
Est-ce que c'est plus facile de répondre à la question quand que de savoir ce que c'est l'extraordinaire?
Quand vous savez ce que c'est que l'extraordinaire, vous savez quand?
Ah, mois de novembre.
Non.
D'accord. C'est une éclipse de soleil qui n'a aucun rapport avec la Formule 1?
Ah, d'un certain côté.
Est-ce que déjà c'est un rapport avec la F1?
C'est un rapport avec la F1. Mais d'un certain côté, dans ce que dit Gus, bah, j'aurais tendance à dire que la réponse n'est pas forcément mauvaise, je te dis.
Ouais, il y a une part de vérité.
Voilà.
Je comprends encore moins que avant d'avoir posé la question.
C'est génial.
C'est tout l'intérêt de cette émission de pré-saison. Donc la question, je vous la rappelle, quand risque-t-on de revoir l'extraordinaire?
Tu confirmes que ça a vraiment, c'est un rapport direct avec la F1?
Ah oui.
C'est un événement qui a lieu autour de la F1?
C'est pas un événement en soi.
Est-ce que c'est quelque chose qui se fera avant les Grands Prix?
Avant les Grands Prix, non.
Après les Grands Prix?
Non.
Une pole de Marussia.
Ça serait extraordinaire, mais non.
Les balayeuses canadiennes.
Ah, il y a un petit rapport.
Il y a un rapport.
C'était quoi
ce Il y a des chances qu'on revoie l'extraordinaire quand on verra les balayeuses.
Une course sous la neige.
Non.
Non.
Sous la pluie, alors.
Ah, sous la pluie. Alors, on va donner un point. Et alors, qu'est-ce que c'est l'extraordinaire?
Ah, on le Pirelli.
Alors, le pneu Pirelli, ouais.
Le pneu Cinturato. Et...
Bravo, le pneu Cinturato. Donc, ça nous fait 3 points pour Gus.
C'est moi qui dis Cinturato, mais le pneu pluie, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit.
C'est Eric. Qui l'a dit.
Oui, mais ce que je voulais, c'était surtout le Cinturato.
Ah, bah,
c'est ça qui est important. Parce que les pneus pluie, il y en a toujours eu.
Tu es seul juge.
Oui, effectivement, c'est l'extraordinaire, c'est le surnom que donnait Juan Manuel Fangio au pneu Cinturato dans les années 1950. Donc, à l'époque, c'était juste un pneu route, hein. C'était la grande nouveauté de Pirelli. Je crois que c'était un pneu avec une structure radiale, une carcasse ou je sais plus quoi.
Truc de dingue.
Voilà. Et donc, cette année, Pirelli a décidé de différencier ses pneus pluie de ses pneus slick par une différence de nomination. C'est-à-dire que l'an dernier, tous les pneus s'appelaient P0. Et là, cette année, les pneus slick seront P0 et les pneus pluie seront Cinturato. Et Cinturato, c'était surnommé l'extraordinaire par Fangio parce qu'il trouvait que ça offrait des performances extraordinaires. Voilà. Donc là, on verra si c'est le cas cette année, mais on ne le verra que quand il pleuvra.
Voilà.
Peut-être en Malaisie.
D'accord.
Donc probablement en Malaisie, à Melbourne, il peut pleuvoir. Bah oui,
c'est possible.
Il a plu l'an dernier, mais c'est quand même relativement rare.
Donc
peut-être à Bahreïn. Là, ce sera du Cinturato rouge, parce que s'il pleut à Bahreïn, c'est pas de la pluie. Alors, le total de points, ça nous fait 5 points pour Gus Gus, 1,5 pour Cédric et 0,5 pour Eric.
Et c'est bien de faire le rappel de points, puisque là, la prochaine question... C'est un challenge.
Aïe, aïe, aïe.
Alors, on peut peut-être juste, si je dis, vous demander votre opinion sur Pirelli, parce que je sais que tout à l'heure, je crois que c'est Cédric qui a parlé du spectacle l'année dernière. Mm-hmm. Est-ce que pour vous, Pirelli, c'est vraiment quelque chose qui a apporté du spectacle en 2011 et qu'est-ce que vous en attendez en 2012?
Je dirais, d'une certaine manière, oui, avec l'usure, ouais. Mais j'aimerais bien revoir Michelin.
Oui, nous, non.
Bah, je préfère ça à Pirelli, quoi.
Ou alors, je veux que Ferrari prenne Michelin.
Des pneus qui devraient être plus tendres, hein, cette année.
Ouais.
Ouais, je pense. Ouais, non, mais cette année, je pense qu'ils ont... Alors, en fait, ils ont corrigé les erreurs de l'année passée. Ouais.
Le super tendre est exactement le même que l'an dernier. Et le nouveau pneu dur, c'est en fait le médium qu'on a vu en fin de saison. Donc, la gamme est légèrement rétrécie.
Et je crois aussi que le profil des pneus, il est un peu plus carré,
oui,
je crois,
l'arrière.
Cette année, à l'arrière.
Justement pour compenser la perte d'appui, enfin la perte d'adhérence provoquée par la fin supposée des échappements soufflés.
La fin sous une forme des échappements soufflés.
D'ailleurs, je crois que les pneus vont s'user moins vite maintenant, je crois.
Bah, à l'arrière, oui, y a forcément.
On a vu lors des essais cette semaine des relais assez intéressants de 22-23 tours avec des pneus médiums. Donc, alors après, ça dépend des charges de carburant, mais.
Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, moi.
D'ailleurs, il y aura moins de carburant dans les voitures aussi, à cause de ça. Parce que,
déjà pour les moteurs Renault, oui.
Voilà, comme il n'y a pas de soufflage, les cartographies vont
peut-être
être imprimées plus. Enfin, voilà. Pour l'instant.
Là, je crois qu'ils vont. Ceux qui ont des moteurs Renault vont partir avec 15 litres en moins.
Ouais.
Voilà. Parce que les cartographies vont être plus simples, ils vont revenir à des choses plus classiques, donc moins de consommation d'essence. Et en effet, oui, pour le Renault, ils ont parlé de 15 litres, 15 kilos.
Non, justement, c'est qu'en fait, l'essence, elle a une densité autour de 0,7-0,8, donc 15 litres, oui. Ça fait 12-11 kilos, quelque chose de genre. Ouais.
Donc je crois qu'ils ont dit 15 kilos, parce qu'en général, ils parlent en kilos hein, pour les...
Ouais.
Enfin,
Par contre, ce que je trouve intéressant avec Pirelli, ce serait qu'ils continuent de changer les pneus chaque année, parce que... Quand les Bridgestone restaient les mêmes année sur année, ben au fur et à mesure les écuries elles comprenaient mieux les pneus,
oui.
Et donc les relais duraient de plus en plus durs au point qu'à la fin c'était de la pierre quoi les pneus.
Mais en tout cas c'est ce que eux ils ont déclaré, hein. Ils ont dit les Formule 1 s'adaptent très vite, on l'a vu l'année dernière vers la fin de saison ils avaient complètement compris les pneus, donc nous l'objectif c'est de leur proposer chaque saison de nouveaux défis. Moi le seul doute que j'ai c'est qu'ils ont annoncé le fait qu'il y aurait des puces dans les roues avec des roues intelligentes qui enverrait des données en temps réel et j'ai un peu peur que les équipes aient accès à ces données et que par conséquent elles puissent prévoir la chute de performance des pneus et que ça perde un peu de son côté avoir le nez fin et compagnie et qu'on se fie juste à un logiciel qui prédira tiens au tour 29 il faut qu'on rentre voilà je trouve que c'est j'espère qu'en tout cas les équipes n'auront pas un accès complet aux données
pas direct en tout cas.
Voilà pas direct. On peut donc passer, je pense, Inji, au challenge.
Au premier challenge.
Ah, je vais tous vous fumer, les mecs.
Ah. Et ça va faire plaisir à beaucoup de monde parce que aujourd'hui, les challenges vont être des chiffres inutiles.
Oh non.
Ah merde, hein, faudrait savoir, les gars. Hein.
J'ai pas bien compris.
Vous me réclamez à corps et à cri des chiffres inutiles quand je vous en mets non, eh oh.
Il faut rappeler que la première saison complète du SAV de la F1, bon, vous êtes non pas sans savoir que Shinji nous inflige à chaque début d'émission son éphéméride inutile. Mais avant cela, il y avait une super rubrique qui s'appelait le chiffre inutile où Shinji nous donnait un chiffre complètement inutile qu'il fallait qu'on devine. Voilà.
153.
Et voilà, donc c'est une rubrique qui était préférée hein, à l'éphéméride. C'est pour ça que Shinji nous inflige l'éphéméride juste pour nous emmerder. Et qui nous a par exemple permis de découvrir plein de choses. La ville à 0% émission de CO2 en Émirats Arabes Unis, je crois, non, Shinji?
C'est bien, t'as retenu. Ah, c'est donc...
j'ai retenu le dernier en date, Shinji. C'est bien.
Alors, le chiffre, c'est donc un chiffre qui n'a donc aucun rapport avec la F1, même si vous allez voir que les chiffres ont un lien entre eux, qui est pas très compliqué hein, non plus, hein, vous allez vite le deviner.
Ce sont des chiffres autour du fromage.
Non.
Rappelons juste la règle, Shinji. Hein.
Eh bien, je donne un chiffre, il faut savoir à quoi il se rapporte.
Voilà, et si vous devinez, vous marquez, celui qui devine marque 5 points, c'est quand même des gros points, et si c'est moi qui devine, bah, personne ne marque rien.
Voilà.
Ah, super.
Je vais me faire un plaisir de vous prendre.
C'est un gros bonus hein, que vous pouvez avoir hein, quand même. Et donc, le premier chiffre de l'année de cette émission, ce n'est pas le chiffre 153, mais c'est un chiffre qui n'est pas très lourd, puisque c'est le chiffre 184.
Est-ce que c'est une masse, Shinji?
Ce n'est pas une masse.
Nombre de tours?
Ce n'est pas un nombre de tours.
C'est une vitesse?
Ce n'est pas une vitesse.
Nombre de Grand Prix?
Non.
Est-ce que c'est un nombre de quelque chose?
C'est le nombre de quelque chose.
Nombre de pilotes?
Non. Je rappelle hein, que le chiffre n'a aucun D'accord. rapport avec la F1.
Aucun?
Ah bah oui, c'est pour ça qu'il est inutile.
Ça a un rapport avec un pays qu'on va...
Nombre de places de parking, je sais pas.
C'est un nombre de quelque chose, mais pas de parking. Tu disais, Dino?
Est-ce que ça a un rapport avec un pays qu'on va visiter?
Ça a même un rapport avec plusieurs pays qu'on va visiter.
C'est un nombre de pays?
De la monnaie?
Ce n'est pas de la monnaie, ce n'est pas un nombre de pays.
C'est
bien que le nombre de pays concernés... n'est pas très loin de ce chiffre-là.
Nombre de pneus.
C'est le nombre de pays reconnus par les Nations Unies, quelque chose dans le genre?
Non.
184.
Donc c'est un nombre de quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut acheter?
Non, on ne peut pas l'acheter.
On peut toucher?
Non plus.
C'est quelque chose d'immatériel.
C'est un nombre de kilomètres?
C'est quelque chose d'immatériel. Oui, Cédric?
Je disais un nombre de kilomètres, de miles, je sais pas.
Non, pas de miles.
C'est une unité de mesure?
Non, c'est plutôt un nombre de fois quelque chose qui se répète, en fait.
Tour de la Terre?
Non, mais on est dans cet ordre de grandeur.
C'est un rapport avec l'automobile, quand même?
Non, pas avec l'automobile.
C'est un
non.
rapport avec les bateaux?
Non, pas avec les bateaux.
Donc oui, avec aucun moyen de transport? Ça n'a pas de rapport avec les moyens de transport?
Le nombre de fois
pas spécifique. C'est le nombre de fois quelque chose, mais pas les tours d'une ville.
C'est le nombre de fois qu'on passe quelque chose?
Les bronzés font du ski! C'est la 5 ce soir qu'on passe les bronzés c'est... font du ski!
C'est le nombre de fois qu'aurait pu se passer quelque chose.
Mais qui n'aura pas lieu cette saison.
Qui pourrait avoir lieu cette saison.
Ah, c'est le nombre de chiffres inutiles que tu as fait.
Non, j'en ai pas fait autant.
184 camions?
Non, c'est quelque chose qui pourrait se passer cette année.
C'est un rapport avec le SAV ou pas?
Avec ça peut avoir une influence avec le SAV, mais ça peut avoir une influence sur beaucoup de choses.
Bon, ça n'a aucun rapport avec le SAV, donc.
C'est un rapport avec le temps?
Pour certains, pour certaines fois, oui. Enfin...
C'est la 184e fois qu'on nous annonce que c'est la fin du monde.
Oui, Dino!
Je suis trop fort! Il vient d'avoir un éclair, j'ai dit.
Ah, c'est l'éclair, là! En effet, il y a un historien français qui s'appelle Luc Marie qui a recensé donc le nombre de fois où on a annoncé la fin du monde. Et donc, cette année, c'est la 184e fois qu'on annonce la fin du monde. C'est pour ça que ça concerne tous les pays du monde, que ça peut avoir une influence sur le SAV et sur plein d'autres choses, bien et évidemment.
Eh bien, je vous annonce, la fin du monde aura lieu le 22 décembre et c'est la 185e fois.
Ah non, justement, c'est la 184e fois.
Oui, mais moi j'annonce ma propre fin du monde.
Ah, c'est oui.
Donc il a répondu là, c'est.
Le mec est prêt à tout pour récupérer des points. Non, je suis plus fort que vous, les mecs, merde, quoi.
Et donc là, qui a perdu
ça te fait
points,
toujours 0 points.
Oui, c'est vrai.
Alors, j'ai noté un petit panorama des fins du monde annoncées. Vous savez qu'une des plus anciennes, c'était les Romains, il y a plus de 2000 ans. qui pensaient que peut-être la fin du monde arriverait en moins 634 parce qu'ils pensaient que la ville de Rome serait détruite 120 ans après sa fondation. Alors après, pendant très longtemps, il y a beaucoup de fins du monde qui sont liées à l'arrivée de l'Antéchrist, tout le toutime. Hein, donc l'an 1000, on a cru à la fin du monde. 1033, c'est-à-dire 1000 ans après la mort du Christ, pareil, fin du monde. 1066, 1666, parce que bien évidemment, il y a le chiffre du diable dedans.
Et 666 tout court, ça n'a pas été le cas.
Si, si, aussi. Ah. Forcément, hein, tous les multiples de 666. Alors, en 1186, Jean de Tolède, il a prévu la fin du monde basée sur un alignement de planètes, hein, comme quoi ça ne date pas d'aujourd'hui. En 1346, il y avait la peste noire. On a cru aussi que c'était la fin du monde. En 1533, il y a un mathématicien qui avait calculé que la fin du monde aurait lieu le 19 octobre, donc 1533, à 8h du matin.
Super 32 facile. Secondes.
32 secondes. On peut noter que les fameux étudiants de la Bible, qui maintenant s'appellent les témoins de Jéhovah, ont prédit quand même 9 apocalypses hein, entre 1874 et 1994.
Tu vois ?
Ah ouais, quand même.
Et puis sinon, c'est vrai qu'avec le 20e siècle, hein, forcément, j'ai envie de dire, il y a de la nouveauté, hein, y a la technologie qui arrive, la science hein, qui arrive. Hein. Donc en 1996, hein, les extraterrestres auraient dû détruire la Terre hein, avec des coups de laser. La guerre mondiale aurait dû être déclarée en 1997. En janvier 99, nous aurions dû passer dans la quatrième dimension, due à l'inversion du courant de l'énergie.
Oui.
Satan, bien évidemment, aurait dû détruire le monde en l'an 2000. Hein. Notez une fin du monde purement scientifique, hein. C'était le 10 septembre 2008, c'est lors de l'ouverture du fameux LHC, c'est-à-dire c'est un accélérateur de particules qui existe donc entre la France et la Suisse, et qui parmi ses activités crée des petits trous noirs, donc on a eu peur que, on va dire, les trous noirs prennent un peu trop grande importance. Et donc sinon il y a cette fameuse fin du monde hein, donc de décembre 2012 qui est donc la fin d'un cycle du compte long du calendrier maya, début d'un nouveau cycle forcément, et donc qui est interprété hein, par certains comme une fin du monde, notamment dû à des événements importants tels que des guerres et des catastrophes naturelles. Donc on verra hein.
On pourrait dire ouais, savoir, tu gagner encore.
Hein, faut savoir que certains prédisent déjà des fins du monde hein, pour bien plus longtemps. Par exemple, Isaac Newton pensait que la fin des temps arriverait en 2060.
Oh, ça va.
Ouais, ça va, ils ont encore un peu de temps. Hein.
D'ici, Vettel aura gagné 11 titres.
Ouais. 11 titres. Hein. Certains adorateurs de Nostradamus pensent que la fin du monde arrivera en 3797.
Oh, parce on a le temps de voir venir.
Ces prédictions apparemment s'arrêtent à cette année-là. Il n'a pas continué, c'est qu'il y a peut-être une raison. Sinon, on peut rappeler que dans environ 500 millions d'années, hein, normalement, le niveau de CO2 dans l'atmosphère hein, devrait rendre toute vie impossible sur Terre. Et que de toute façon, dans 5 milliards d'années, le soleil devrait mourir de sa belle mort et nous aussi. Enfin, normalement, ça fera déjà quelques milliards d'années qu'on aura cramé.
Il y a des chances.
Voilà. Bravo Dino pour cet éclair de génie.
Bah écoute, non c'est parce que je te connais aussi. J'avoue messieurs, j'ai un petit avantage, c'est que c'est mon meilleur ami donc.
Ouais, avec compris. Hein.
Fallait quand même le sortir.
Il y a une partie du logiciel que je maîtrise. Donc ça nous fait un classement qui est à toujours 5 pour Gus, 1,5 pour Cédric et 0,5 pour Eric. Avant la prochaine question.
C'est à toi Dino.
Et la prochaine question vous rapportera 2 points. Et c'est une question que j'affectionne tout particulièrement, Shinji. J'y ai la suivante. Qui a rejoint Simon après avoir quitté Keke?
Ah, tu parles de Keke Rosberg là?
Oui, le Keke, c'est que... Bah...
En même temps, on n'en connaît pas 40 000, hein, des Keke. Enfin, si, on peut en connaître 40 000, mais vous m'avez compris.
Eh, Shinji, il y a Keke.
Oh, ta gueule.
Tu peux répéter la question?
Donc, qui a rejoint Simon après avoir quitté Keke?
Donc c'est pas Gilles Simon.
Non, c'est pas Gilles Simon qui est le responsable de, enfin l'un des responsables du projet Pur pour 2014.
C'est Simon Pagenaud?
Non.
C'est Nathalie Simon?
Ah non. Donc qui a rejoint Simon après avoir quitté Keke? Et on peut tout de suite dire que ce n'est pas la femme de Keke et la mère de Nico.
Nico.
C'est un ancien pilote?
Non.
Un manager?
Ah, un manager de quoi?
Lewis Hamilton?
Non, pas Lewis Hamilton.
Non, c'est Simon Fuller.
Ouh, alors, c'est maintenant la question, c'est qui a rejoint Simon Fuller après avoir quitté Keke Rosberg?
Donc c'est pas Lewis Hamilton.
C'est pas Lewis Hamilton. Mais c'est lié, on vous êtes dans le domaine.
Bah c'est Nicole.
Non.
C'est pas le père de Lewis?
Non, mais on est dans le même domaine.
Et c'est quelqu'un qui... C'est un pilote de F1 ou pas?
Non.
C'est une star de la chanson?
Non. Il y a déjà eu à peu près la réponse, mais c'est juste que voilà, c'est il faut me donner plus de détails.
Ah bah c'est le nouveau manager de d'Hamilton, Didier Coton.
Eh ben bah bravo. Si j'avais en plus un indice pour vous, c'est la Watt qui le préfère. Mais il préférait me retenir. Donc effectivement, hein, celui qui a rejoint Simon après avoir quitté Keke, c'est Didier Coton, le nouveau manager de Lewis Hamilton. Et je crois d'ailleurs qu'à l'époque où il travaillait avec Keke Rosberg, puisque Keke Rosberg avait une société de management de pilotes, il était chargé de Mika Hakkinen.
Oui.
Et donc là, il va s'occuper à plein temps de Lewis Hamilton, alors qu'on sait que l'année dernière, on avait reproché notamment à Simon Fuller d'être un manager plus people qu'autre chose. Là, au moins, il aura quelqu'un qui l'accompagnera, comme faisait son père à l'époque. Ouais. Et ça nous fait donc 7 points pour Gus.
Ça fait combien de secondes d'avance, là?
Donc un petit tout, c'est un peu le personnage dont on a beaucoup parlé l'année dernière, Lewis.
À peine.
Non, c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé, c'est vrai, je te dis. Bon, en tout cas, nous, on en a beaucoup parlé. Vous avez peut-être entendu ce qu'on a dit. Quelle est votre opinion sur Lewis et vos espoirs? Parce que, par exemple, Eric, tu es fan de McLaren. Quels sont tes espoirs pour cette année?
Ouais, non, enfin, c'est pas ça. C'est que je les vois bien, vu les essais qu'ils ont faits là, ces deux dernières semaines. Bon, je dis, je les vois bien au moins au niveau de Red Bull, quoi. Hein, donc, ouais. Voilà. Après, bon, Lewis Hamilton, ouais, s'il croise pas Massa, ça pourrait le faire.
C'est ça, pour rejoindre Shinji, je pense que la fin du monde aura lieu grâce, enfin, à cause de la guerre Massa-Hamilton.
Non, moi, je vois plutôt Button cette année.
Ouais. Dans la suite logique de l'an dernier, ouais.
Non, puis je pense que du fait que ça risque d'être plus serré, je pense que, ouais, que Button tirera mieux son épingle du jeu.
Oui, puis on peut aussi se poser la question de savoir si la saison dernière de Lewis Hamilton n'a pas plutôt fait basculer la balance technique du côté de Button, et donc que peut-être la MP4-27 est peut-être un peu plus à la main de Button qu'à celle de Lewis, même si Lewis se sort facilement de la monoplace, hein, mais... Voilà, peut-être qu'ils ont plus suivi les directions données par Button que par Lewis.
C'est possible. Ouais. Enfin, je pense que de toute façon chez McLaren, ils ont toujours pris. Enfin, ils ont pas privilégié un pilote sur l'autre, quoi. Hein. Ouais. Ça a toujours été le dans l'histoire, ils ont toujours mis au même niveau leur pilote. Hein.
Pas dire ça à Kovalainen.
De toute façon, je crois qu'ils ont...
Ouais, non, mais bon.
Je crois qu'ils ont commenté, ils ont dit qu'il n'y a pas de pilote numéro 2, ils ont dit que Button Lewis est pilote numéro 3, pilote numéro 4.
Mais moi, je ne ferai pas une croix dessus. Moi, je pense que c'est l'année ou jamais pour lui de reprendre le taureau par les cornes et de revenir sur le devant de la scène. Maintenant que ses problèmes extra-sportifs devraient être réglés... C'est maintenant ou jamais. Je pense qu'il en est capable de toute façon.
Bah c'est le bon aspect de l'engagement de Didier Coton, c'est que voilà, c'est quand même quelqu'un qui a déjà encadré un champion du monde.
Il y aura quelqu'un pour le suivre.
Voilà, c'est quelqu'un qui connaît le sport auto, qui sait comment ça fonctionne, qui connaît aussi les besoins d'un pilote. Parce que ce qu'on peut reprocher peut-être à Simon Fuller, c'est qu'il a surtout géré l'image Lewis Hamilton. Là où Didier Coton va lui vraiment, je pense, gérer l'aspect sportif
et humain qui est
essentiel. En Formule 1, enfin, sauf pour certains pilotes qui sont capables de gérer tout seul, mais on a bien vu que Lewis, qui a tout le temps été accompagné par son père ou par McLaren, n'est pas suffisamment
armé,
peut-être, pour pouvoir se gérer lui-même.
C'est sûr, oui.
Et je crois que Cédric, tu voulais dire quelque chose sur Hamilton, non?
Oui, oui, enfin, c'était surtout pour revenir. Je trouve quand même bizarre que pour un pilote, même s'il est jeune, de ne pas savoir gérer ses émotions, quoi. C'est un peu dommage, quoi.
Nous approuvons. Voilà. On passe à la question suivante, Shinji, alors.
Oui.
Et une grosse question qui vaut 3 points.
Qui vaut 3 points. Pour quelle raison les Australiens auront-ils une pensée pour Sid à l'occasion du Grand Prix d'Australie?
C'est Sid Watkins?
Ah,
non.
Il était trop gros, le piège.
Sid.
Sid. S-Y-D.
C'est un personnage important du Grand Prix d'Australie? Quelqu'un, un manager qui est...
Non, c'est pas un personnage du Grand Prix d'Australie.
Ce sera son anniversaire, je sais pas.
Non, je crois pas, non.
Il va partir à la retraite.
Il est déjà parti à la retraite.
Je crois pas que... Oui, il est déjà parti à la retraite, oui.
Tu parles bien de Sid Patterson, hein.
Non.
J'en connais pas des...
C'est un surnom, Sid, ou c'est quelqu'un qui s'appelle vraiment Sid?
Ouais, il s'appelle vraiment Sid.
En tout cas, à sa naissance, on lui a donné ce nom-là.
C'est un ancien pilote, ça?
Non.
Quoi qu'on a vu... Non, j'irai rien.
Il est mort?
Non, il est pas mort, je pense pas.
Non, on peut pas...
Enfin, c'est difficile, dans son cas.
C'est... Oui, voilà. C'est pas un mot adéquat, en fait.
C'est pas quelqu'un, en fait. C'est pas une personne.
Oui, c'est pas une personne, oui.
Ah, d'accord. Une association ?
Non.
C'est un sigle ?
Non.
Pas un sigle, non.
Vous pouvez répéter la question sans faire de référence à un
groupe. Pour quelle raison les Australiens auront-ils une pensée pour Sid à l'occasion du Grand Prix d'Australie ?
Ce sera un lancement, je sais pas.
Non.
C'est une marmotte qui vit dans Albert Park ?
Non.
Non.
C'est un arbre ?
C'est pas un arbre.
Vous voulez sortir ces questions ?
Il y aura un message à son, sur une voiture à propos de lui ?
Non, à vrai dire, on ne le verra pas. Hein.
Non, non, Mais on peut même vous dire, on n'est pas sûr que les Australiens y pensent. Mais
oui,
ils pourraient y penser.
C'est un rapport avec l'aéroport de Sydney, ça ?
Non.
C'est un rapport avec Sydney.
Ils ont une candidature quelconque pour des jeux du Commonwealth ou je sais pas quoi ?
Non.
Non.
C'est un rapport avec Qantas ?
Non.
Non.
Qui sera le sponsor du Grand Prix, je crois.
Encore.
Avec les belles tenues Qantas.
Ouais, je sais pas, moi, c'est une promo de billets pas cher.
Non. Mais vraiment, pour vous dire, en fait, on sait pas s'ils y penseront.
Donc comment veux-tu que si les Australiens y pensent pas, nous on y pense ?
C'est l'anniversaire du Grand Prix ?
C'est tout le défi.
Du circuit ?
Non.
Non. Non, parce que on voulait dire, c'est un lien avec Sydney. Pas avec Melbourne.
Ah, Sydney. Ok.
C'est une mascotte, Sid ?
Oui.
C'est une mascotte.
La mascotte des Jeux Olympiques de 2000 ?
Oui.
Oui.
Ah oui.
Et
oui.
Pourquoi pourrait-il avoir une pensée ?
Pourquoi il pourrait y penser ?
Elle va venir au Grand Prix.
Pour la nostalgie, tout ça.
Non, les Australiens sont pas aussi...
Il est mort.
Non, c'est une mascotte. Donc,
c'est une mascotte.
Il est éternel.
Il est immortel. Ah, parce qu'ils vont déposer une nouvelle candidature pour avoir les Jeux Olympiques ?
Non.
Non.
Parce que la FIA est devenue membre du CIO ?
Ça aurait pu être ça,
en fait,
mais non.
Vous savez que Sid était une mascotte. Mais quoi d'autre ?
Voilà.
C'était une voiture ?
C'était pas une voiture.
Quoique maintenant, on peut dire que oui, j'ai dit.
Oui.
À deux, trois petits détails près, oui.
Elle va être dans Cars 3.
Non.
Non.
C'est une voiture ?
Non.
Non. Oh, allez, qu'est-ce qu'ils auraient bien pu prendre comme mascotte pour les Jeux Olympiques ?
Un kangourou ?
Alors, non, il y avait trois mascottes, il y en avait deux, c'était un kangourou.
Un dingo.
Non.
Un diable de Tasmanie.
Non.
Non. Je crois, Tino, qu'il ne savent pas que c'est sa vie en Australie.
Oui, mais c'est vrai que je l'ai découvert aussi. Mais vous êtes dans le règne animal. Donc à quel animal pourrait-il penser en disant « Ah, tiens, ça nous rappelle Sid, la mascotte des Jeux Olympiques de Sydney, à Melbourne ?»
Un taureau.
Non.
Et il voit la Red Bull.
Là, ils vont y penser. Le taureau, ils y auraient pensé toutes les années où il y avait eu Red Bull. Et là, ils vont y penser là, spécifiquement cette année.
Cette année.
Ah, l'ornithorynque.
L'ornithorynque.
Ah, ben oui.
C'est qui a dit l'ornithorynque en premier? Je crois que c'est...
Moi, c'est moi.
C'est Cédric.
Eh oui, donc une des trois mascottes, voilà.
Et maintenant, je comprends mieux ce qui, en fin de compte, ce qui m'a fait tilt, là, c'est le logo sur le site. Ça m'a fait penser tout de suite, là.
Donc oui, c'est un ornithorynque, hein. Et c'est en référence à ces fameux museaux dits d'ornithorynque qui vont chausser magnifiquement nos monoplaces cette saison, qui nous ont
figuré.
Sauf une.
D'ailleurs, ça me fait penser à Sid. Vous savez la mascotte des Jeux Olympiques 2000 à Sydney.
Oui. Magnifique.
Bon.
Assumer autant comme ça un bide, Gus, je trouve ça fantastique. Donc ça nous fait actuellement 4,5 points pour Cédric.
Ouais.
0,5 points pour Eric. T'as sûr, Eric, on te rappelle, si tu fais 0,5 points, t'es les La Lombardie.
Et y a pas de truc genre option Kers, DRS pour lui ?
Non.
Ah ouais, y a pas.
Allez, on passe par les stands.
Donc vous, ces museaux, vous en pensez quoi ? Je sais qu'on a un expert en technique qui pourra peut-être nous expliquer quel est véritablement le fondement de ces museaux. Quels sont les potentiels avantages ?
C'est vrai que sur le plan esthétique, on peut trouver ça moche. Mais après, on peut essayer de comprendre les écuries aussi. Si c'est pour un compromis, pour pas avoir à travailler sur les suspensions et tout, ça je peux comprendre après. Hein. Mais je pense qu'on va s'y habituer avec le temps. Donc, voilà.
C'est ce qu'a dit Alonso lors de la présentation de la F2012. Il a dit au départ, ça peut choquer, mais après on s'habitue. Et c'est vrai que moi je reconnais qu'au début j'ai eu beaucoup de mal. Hein. Moi qui suis fan de Ferrari, j'ai beau dire ce qui compte c'est qu'elle soit rapide. Bon, quand elle est pas belle, j'ai quand même tendance à l'avoir moins rapide. Puis il se trouve qu'elle a pas l'air non plus très rapide. Donc... Mais au fur et à mesure, je trouve que ça leur donne une gueule, quoi. Enfin.
Mais après, faut comprendre, c'est sûr que des écuries, il fallait carrément revoir la géométrie des suspensions pour donner l'allure qu'a McLaren. Mais McLaren, c'est compréhensible, elles avaient déjà l'avant assez bas. Donc voilà. Mais après, faut pas trop en demander non plus. Mais c'est vrai que la Ferrari, elle est vraiment à chier. Enfin,
Non.
Faut dire qu'ils ont fait une interprétation pure et dure, enfin brute de décoffrage du règlement, quoi. C'est la marche et puis il y a rien au milieu ou... qui en effet qui est fait pour que ça soit à peu près joli, quoi.
Mais en même temps, après, ouais. Il paraît que le but chez Ferrari, comme chez Sauber et Williams, de cette marche, c'est d'avoir un effet, un effet Venturi, je crois.
Oui.
Mais l'effet Venturi, je pense plus que ça va, c'est plus vers la Red Bull. Hein.
Oui, s'ils ont une entrée qui va alimenter le diffuseur arrière, comme tout le monde le pense, sauf Adrien.
Oui. Ouais.
Franchement, je trouve que ça part sous la voiture. Moi.
Ouais.
Non, c'est pour refroidir le pilote.
Bien sûr, ouais.
Oui, il a besoin de 25 litres d'air à la seconde pour. C'est pour Lewis Hamilton s'il doit venir en 2013.
Alors, il y aura McLaren a déjà une solution différente. Parce que eux, ils ont expliqué que ils avaient déjà le museau bas. Alors c'est aussi, c'est-à-dire que il y a la question des suspensions, mais il y a aussi la question de la hauteur du museau qui avait été introduite notamment par Adrian Newey sur la RB6, je crois, non la RB5, qui permettait en fait d'augmenter la surface, enfin le volume d'air qui rentre sous la voiture. À l'avant.
Voilà, c'est
et qu'en abaissant nécessairement en abaissant le museau, comme l'a fait McLaren, on réduit l'espace qui est consacré à l'air. Bon, il se trouve que McLaren, ils avaient déjà un avant très travaillé qui permettait de compenser ce genre de choses. Mais on le verra aussi, et là c'est très très bon signe pour McLaren, on le verra aussi sur la Marussia et la HRT, ils ont la même solution que McLaren. Voilà. Moi je suis un ingénieur McLaren, j'ai quand même tendance un petit peu à me suicider. Merde,
il faut aussi dire que la FIA a quand même une responsabilité d'avoir fait un règlement qui autorise ça, parce qu'ils savaient très bien que les écuries... Elles allaient choisir des voies ou...
Non, parce que la FIA, elle n'anticipe rien. Il y a qu'à voir là, sur la règle des échappements, ils ont été obligés de la dire. Ah oui, c'est vrai, il y a peut-être des équipes qui vont essayer de contourner l'interdiction. Bah oui, les mecs, c'est pas des bisounours, enfin...
Ça vaudrait presque un drive-thru, mais c'est... on n'est pas là pour ça.
Une favorite, sinon, au niveau du look, juste sur le museau, en dehors des McLaren et... On va complexifier la tâche, on va vous demander la plus moche.
Hors catégorie.
C'est dur quand même. La Red Bull, mais pas forcément esthétiquement, pour ma part en tout cas, mais c'est que la solution c'est la mieux pensée de toutes, je pense.
Je suis d'accord.
C'est plutôt ça qui me fait aimer l'esthétique d'une voiture que le côté purement... purement visuel.
Ah, c'est pas forcément la plus jolie, mais il arrive quand même à te rendre quelque chose de moche, joli, parce que tu te dis, il y a quelque chose derrière. Enfin, il a réussi à sublimer ce truc horrible pour lui donner une utilité.
Oui.
Et vous, Cédric et Eric?
Moi, je dirais que, bon, éventuellement, la Lotus.
Non, je sais pas.
Quand même, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pas, la cassure, elle est pas agressive, elle est plutôt douce.
Ah, c'est justement,
moi, c'est ça.
Puis les couleurs Edge, je pense aussi, à atténuer.
Ouais, c'est sûr, ouais.
Oui, c'est vrai, tu vois pas les...
Et après, j'aime bien la Toro Rosso aussi.
Ah, le mieux, c'est Sauber. Sauber qui s'est dit, on va la cacher, on va la peindre en noir. Mais on va pas tout peindre en noir, on va s'arrêter après.
T'as pas vu la Force India avec son os dans le nez, avec les caméras?
C'est pas impossible de les voir évoluer d'ici la fin de la saison.
Théoriquement, je pense que oui, puisque c'est une partie qui peut changer sans forcément le crash test. Je pense que la solution de Red Bull est compliquée à refaire. On verra peut-être à Barcelone, peut-être qu'il y en aura qui vont tenter, mais...
Surtout si on ne sait pas à quoi sert l'entrée qui est sur la cassure, si on ne sait pas à quoi elle sert, c'est sûr que d'essayer de copier, ça ne sert à rien. Ah, mais la Ferrari, j'ai pas envie d'être méchant, mais même une Renault 3.5, elle a plus d'allure qu'une Ferrari, là.
En ce moment, oui.
Qu'est-ce qui peut être large, le nez de Ferrari, putain.
Ouais.
Oui, mais c'est, en plus, c'est que la largeur du nez de Ferrari, il est le moins large à l'endroit où tu raccroches le nez, quoi. Et après, il se réélargit.
Ouais.
Quand tu vois la voiture de...
Mais l'idée, justement, apparemment, si vous regardez sous le museau de la Ferrari, il y a ces deux mâts qui sont très profonds, et derrière, il y a deux appendices aérodynamiques au niveau des roues qui permettent en fait de canaliser l'air. Donc l'idée pour eux, c'est d'absorber le plus d'air. C'est le principe de l'effet Venturi, je crois. D'absorber le plus d'air à l'avant de l'aileron par la largeur du museau, pour ensuite le resserrer au milieu, comme tu dis, en resserrant un peu au niveau de l'accroche du museau, pour ensuite le diriger vers l'arrière de la voiture.
Juste si je peux revenir sur le crash test, parce que en fait ça dépend le crash test. Des fois il y a des nez pour des écuries qui sont un peu plus faibles financièrement, qui sont faits en deux couches. Il y a la couche structurelle qui est la partie qui absorbe l'énergie lors d'un crash test. Et par-dessus, t'as la carrosserie. Et donc, ça dépend. Si c'est fait comme ça, tu peux changer de nez à volonté parce que t'as pas besoin de repasser le crash test. Mais si les deux sont confondus, là, t'es obligé de repasser le crash test parce que l'absorption des chocs est pas la même.
Il y a plus de chances que ce soit les grosses écuries qui soient obligées de repasser les crash tests.
Ouais.
En sachant qu'ils ont les moyens, techniquement, de les repasser.
De les repasser, ouais.
On passe à la question suivante, alors, messieurs.
Allons-y.
Tout le monde nous a dit quelle était la plus belle des plus moches.
Non, je crois.
Vas-y, Eric. J'avais bien un doute.
Non, moi, je rejoins Gus sur la Red Bull.
Ne tombe pas.
Non, c'est pas moi.
C'est moi qui en ai fait tomber quelque chose.
Gus, il est tellement content qu'on le rejoigne sur la Red Bull qui s'est cassé la gueule.
J'allais te dire, t'es pas ton verre, mais...
Alors, question suivante pour 2 points plus 2 points. C'est la question qui, en dehors des challenges, vaut le plus cher.
Double question, alors.
Voilà. Par qui et pourquoi a-t-on entendu parler de la cisale?
Ah, ça me dit quelque chose. C'est un rapport avec l'Italie?
Oui.
La cisale, c'est quoi, ça?
Ah,
une voiture?
Et tout. C'est tout l'enjeu, c'est savoir par qui et pourquoi a-t-on parlé de la cisale.
La cisale, c'est les jeux, c'est l'équivalent française des jeux, non? Soit ça?
Bien.
Et pourquoi, alors?
Et pourquoi?
Par qui? C'est un Français qui a dit ça?
Non.
Un Allemand?
Non.
Non.
Un British?
Non.
C'est un rapport avec Ferrari?
Non.
C'est un pilote qui l'a dit?
Non.
Un manager?
Non.
C'est quelqu'un qui fait partie de la F1?
Oui, indirectement, oui.
Indirectement, donc il fait plus partie de la F1. Un ancien coureur?
Non. Je sais même pas s'il a déjà piloté, Shinji. Il me semble pas.
Je ne crois pas.
Il y a très longtemps, il était très jeune et on le sait pas, là.
C'est pas un certain commentateur de F1 le dimanche qui cause pour dire n'importe quoi?
Je me demande si tu nous as pas dit qui commentait, Shinji, lors des SAV d'or.
Je ne crois pas, non.
Non, effectivement, non. Non, c'est pas un commentateur.
Il a dit ça à la télé ou pas?
Il a dit ça pas à la télé. Il a dit ça lors d'une interview.
C'est un rapport avec la crise?
C'est un rapport avec la crise, oui.
Avec Toro Rosso, c'est un rapport aussi?
Non. Enfin, très lointain, mais non. Je suis déçu, Shinji, qu'il trouve pas. Ouais, j'ai même envie de pleurer, tu vois.
Avec Berlusconi?
Non, pas avec Berlusconi.
Non.
Je lui dis, alors faut que tu réponds à leur question parce que j'en ai marre. Je suis vexé.
C'est pas Briator qui a dit ça?
Non.
Non, Briator, il dit des trucs super intelligents.
Bah, justement.
Donc, je rappelle la question, hein. Par qui et pourquoi a-t-on entendu parler de la Cisale? La Cisale, c'est une société de jeux.
Elle aurait pu sponsoriser une écurie?
Pas véritablement sponsoriser une écurie. Même si on peut penser qu'il aurait eu son nom sur la voiture.
Ah, c'est pas quelqu'un qui possédait une écurie?
Oui.
Minardi?
Alors c'est Giancarlo Minardi, bravo Cédric, ça fait 2 points pour toi. Et à quel propos a-t-il parlé de la cisale?
La cisale, la cisale,
ah,
te veux, si tu veux.
Et je crois que je l'ai lu ça sur le site de Fin d'Info.
Ah, ça me rassure que tu l'aies lu.
Bah, j'ai lu quelque part aussi le nom de cisale, mais après...
Ah, moi, je sais que l'article parlait du fait qu'il est plus italien.
Oui, donc alors? Pourquoi a-t-il parlé de la cisale? Pourquoi a-t-il parlé des jeux en ligne, des jeux d'argent en Italie?
Pour qu'il sponsorise un pilote.
Pour financer le...
Ah oui, il aurait aimé qu'il sponsorise
les pilotes.
Je vais le donner à Eric. Parce que c'est pas tant sponsorisé que financé. L'idée de Giancarlo Minardi, c'est de dire ce qui manque aux pilotes italiens sur des soutiens financiers et économiques. Et il propose...
Ah oui, il faudrait faire une taxe sur les jeux.
Effectivement, de ponctionner une partie de l'argent de l'italienne des jeux, entre guillemets, pour financer la carrière de certains athlètes en disant c'est pas normal que les athlètes doivent uniquement se financer leur carrière par des privés. Et il dit, ça pourrait notamment permettre à un pilote italien de faire carrière en GP2, puis ensuite en Formule 1, en ayant le soutien, en tout cas une partie du soutien, déjà, grâce à cette taxe. Et donc, Eric, bonne nouvelle, tu ne sens pas, Léla Lombardie.
Ah, j'aurais dû lire l'article jusqu'à la fin.
T'as pas lu l'article? Et c'est moi qui l'ai écrit.
Non, mais sur non, il y avait deux paragraphes à la fin, et je vais partir, mais j'aurais dû le lire.
Tu vas le vexer.
Et c'était dans ton dossier sur l'Italie ou c'était avant?
C'était à la fin du dossier sur l'Italie.
Pour en ça, plus, t'as vu.
C'était frais.
Donc voilà, alors il disait qu'en fait, ça avait été un temps pensé avec la cisale. Voilà. Donc vous, l'absence de pilote italien, ça vous émeut ou vous en avez strictement rien à foutre?
Moi, j'ai eu l'absence de pilote français.
Oui, comment mettre les formes?
Moi, je trouve quand même ça dommage parce que ça fait quand même plus de 60 ans qu'il y avait quand même un pilote présent en F1. Voilà, ça fait.
La dernière fois, c'est le Grand Prix du Mexique 70 où il n'y a pas eu de pilote italien.
Ouais.
Et on a eu des pics à 10 pilotes, jusqu'à 10 pilotes sur une grille de départ.
La question, c'est est-ce que les Italiens se sont émus quand il n'y avait plus de Français?
Oui, c'est vrai.
Non.
Ouais. Donc, non plus, voilà.
Mais la question aussi, c'est est-ce que les pilotes, est-ce que les Italiens se sont émus depuis 10 ans alors qu'il n'y a que 2 pilotes italiens? Enfin, on rajoutera Liuzzi, mais il n'y a eu que véritablement 2 pilotes italiens qui se sont installés en Formule 1. Pantano et Jimmy Bruni ayant fait des apparitions météoriques. Et alors que je crois même que Pantano est le seul champion GP2 qui n'a jamais qui n'est jamais repassé en F1 ensuite. Donc je pense aussi qu'il y a c'est vrai qu'il y a un gros problème, peut-être un peu comme nous hein, c'est là-dessus que je terminais notre dossier, c'est que je disais un petit peu comme la France, l'Italie s'est peut-être un petit peu satisfaite de la présence de Ferrari et puis de son rôle de nation historique en se disant bah de toute façon il y aura toujours un pilote italien, c'est pas possible qu'il y en ait pas.
Parce qu'il y a des jeunes pilotes en plus, c'est pas comme si dans les sous il y en avait pas quoi.
Bon bah, on passe à la question suivante alors. Mais avant ça, on va faire un petit point sur le classement puisqu'il y a un nouveau leader.
Oh.
La personne de Cédric qui possède 6 points et demi.
DRS, DRS.
Gus Gus, tu es deuxième avec 5 points. Et donc enfin, Eric, tu ne seras pas allé la Lombardie puisque tu as 2 points et demi.
Tu sauves l'honneur. Hein.
L'honneur est sauf.
Et la prochaine question, c'est une question à 1 plus 1 point, Shinji.
Oui. Qui a dit et pourquoi? Le seul message qui m'est parvenu, c'est que des enfants ont joué au chat et à la souris avec la police.
C'est un pilote qui a dit ça?
Ce n'est pas un pilote.
C'est Tony Hernandez,
non? Non.
Non.
Ah, c'est pas Bernie Mac? Yeah.
Non.
C'est pas Tony Hernandez?
Non.
Fernandez?
Non.
Non, Fernandez, il n'y a c'est pas Caterham dans la phrase. C'est pas lui.
Oui.
Donc tu confirmes, c'est pas un pilote?
Ce n'est pas un pilote.
Ah, quoique il l'a été, je te dis.
Oui, mais c'est pas un pilote.
Ah non, voilà.
Hein. Il a été pilote. Oui. Un oui. Point. C'est qui l'a dit?
C'est moi.
C'est Gus.
Eccleston.
J'ai pas entendu. J'ai dit Bernie. J'ai dit Eccleston tout à l'heure.
Moi j'ai entendu Bernie Mac.
Non mais j'ai dit Eccleston avant.
Bah, j'ai entendu Bernie donc je vais le donner à Cédric, oui.
Très bien.
Et dans ce cas-là, de quoi parlait-il?
Du Grand Prix de Bahreïn.
Exactement.
C'est à propos des manifestants.
Oui, forcément.
Bien joué.
Ça nous fait 7 points et demi pour Cédric, 3 points et demi pour Eric et 5 points toujours pour Gus.
Donc Bahreïn qui est bien parti pour qu'on y aille cette année. Hein. Même ouais. S'il y a toujours des soucis.
Ouais.
Hein. Ah, moi j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas.
Alors faut noter qu'apparemment ils avaient viré, enfin les organisateurs avaient viré les gens qui travaillaient pour le circuit. Parce qu'ils avaient été manifestés l'an dernier et qu'ils les ont réintégrés en signe de réconciliation nationale il y a quelques semaines. Donc voilà, on va donc avoir théoriquement un Grand Prix qui se passera dans un pays où il y a eu des révoltes qui ont été réprimées
dans
et
le
devant
centre.
Des gens qui vont devoir récupérer les voitures, intervenir en piste en cas de drapeau jaune et compagnie, des gens qui ont été manifestants. Voilà.
Mais franchement, vous y croyez vraiment?
Moi, je pense que j'ai déjà donné mon opinion sur le site et dans l'émission l'an dernier. Je pense que aujourd'hui, ils ne peuvent pas, on ne peut pas se permettre de dire aujourd'hui, on n'y va pas. Que la seule raison qui pourra justifier, et Bernie l'a déjà dit, la seule raison qui peut justifier, c'est que pour des raisons de sécurité ou que les équipes, les assurances refusent. C'est encore un peu tôt aujourd'hui pour dire on n'y va pas. Je pense que ça arrivera fin mars, début avril, si jamais il y a une décision, ça arrivera à ce moment-là. Parce que sinon, trop tôt, c'est aussi, je dirais entre guillemets, pour le moment, ce qui est rassurant, c'est que le Grand Prix de Formule 1 sert quand même à faire peser une certaine obligation aux autorités de calmer le jeu, de se poser des vraies questions. Il y a une commission qui a été réunie en présence du roi. On a remis en cause certaines décisions qui ont été prises et compagnie. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que la Formule 1, si on y va, faut vraiment aussi continuer après à mettre la pression. C'est pas juste y aller pour servir l'image du pays et puis pour que le lendemain ça recommence, qu'on renvoie les gens, qu'on les accuse d'actes mensongers. Et compagnie. Mais je pense pas qu'on ira personnellement. J'ai dit, tu penses qu'on ira toi?
Je pense qu'on ira, mais tu sais que ça fait déjà plusieurs années que je pense qu'on doit pas y aller au Bahreïn pour d'autres raisons.
Oh non, c'est un beau circuit, j'ai dit.
Mais oui, en effet, je pense comme toi que ils vont sans doute y aller cette année.
Ouais.
On parie. Oh.
Qu'est-ce qu'on parie?
Au même point.
On parie sur les éphémérides. Si tu perds, il y en aura plus.
Ah. Non, ne pariez pas. Parce que je sais pas encore s'il a décidé qu'il allait les garder ou pas. Alors ne pariez pas, mec. Parce que c'est un coup à ce qu'il gagne et qu'on se le coltine encore pendant un an.
Eh ouais. Et...
là, okay, j'ai encore espoir de le faire changer d'avis. Alors. Bah d'ailleurs, Shinji, c'est l'heure de ton challenge.
Oui, enfin, à moins que quelqu'un veuille acheter quelque chose.
Non, ils sont trop pressés que je leur mette une nouvelle branlée.
Ah. Je sens que ça va devenir dur.
En effet, c'est un deuxième challenge, un deuxième chiffre.
Pour 0 points. Et parce que... ouais.
Et parce qu'il faut savoir varier dans la vie, là, on avait commencé par un petit chiffre. Eh bien, on continue avec un gros chiffre, puisque. Ce nouveau chiffre que je vous propose, c'est 11,7 milliards.
Alors Shinji, je pense que 11,7 milliards, pour être précis, c'est exactement le nombre de fois que Bernie Ecclestone a perdu son dentier avant de devoir le recoller.
Alors, par une incroyable coïncidence, c'est le cas, mais ce n'est pas de quoi je parle.
Ah, dommage. C'est de l'argent ?
C'est de l'argent.
C'est un rapport avec la bourse ?
Non, pas vraiment.
C'est 11 milliards, c'est ça ?
11,7 milliards.
C'est un rapport avec la Grèce ?
Non.
C'est ce que t'as sur ton compte ?
C'est ce que j'aimerais avoir sur mon compte.
Ah, je suis dit, t'as 15 euros en moins, c'est bon.
Un chantier ?
Ça concerne...
un chantier dans
pas directement, mais ça concerne un chantier.
C'est pas le coup des JO de Russie ? À Sochi ?
Ça n'est pas les Jeux à Sochi.
La Coupe du Monde ?
C'est pas le coup qui va coûter
non,
des infos.
Non, mais c'est presque.
L'euro ? En France ?
La villa de Poutine ?
Non.
Non, je déconne.
Ah, au Qatar. Non, tu disais que c'est... les Jeux au Qatar.
Non.
La Coupe du Monde au Qatar. La Coupe du Monde au Qatar.
Non, c'est beaucoup plus proche que de nous.
Ah, c'est l'euro.
Ah, Coupe d'Europe, Coupe d'Europe.
Qui a dit Londres ?
Moi.
Non, c'est pas toi.
Oui, c'est moi qui ai dit Londres.
Ici, c'est Dino.
C'est toi qui as dit Londres ?
Oui, qui a dit Londres.
Ouais, c'est lui.
Les gars...
crame !
Je peux pas dire,
mais... c'est 11 milliards de livres ?
C'est en plus indiscutible.
Alors, si vous m'aviez, parce que vous m'avez pas demandé la devise, c'est 11,7 milliards d'euros, soit 9,3 milliards de livres.
Oh. Ouais, mais attends.
Mais c'est quoi ? Alors, c'est quoi ? C'est le budget ? C'est le déficit ?
C'est le. Non, heureusement, c'est pas le déficit. Pour l'instant. C'est le budget global des Jeux de Londres, hein, de l'organisation à la modernisation des infrastructures. Il faut savoir qu'en 2005, quand la ville était candidate, le budget qu'ils avaient annoncé, c'était 4,2 milliards.
Oui, ça va.
De toute façon, c'est toujours comme ça.
J'espère qu'ils vont faire bénéfice là-dessus. Hein.
En comparaison, il faut savoir que le budget initial prévu pour Paris 2012, c'était seulement de 7 milliards d'euros.
Oui, oui c'était prévisionnel là encore. Donc,
c'était du prévisionnel. C'est d'ailleurs tellement du prévisionnel qu'il y a plein de Londoniens qui trouvent dommage que Paris n'ait pas gagné les Jeux.
Mais la différence, je crois que c'est que le projet anglais contenait beaucoup de constructions, de choses à faire, alors que le projet français s'appuyait sur beaucoup de choses qui étaient déjà construites.
Oui, Stade de France.
Ouais, c'est toujours un peu ça, hein, sur les projets olympiques. Donc l'explosion des coûts est notamment due au coût de la sécurité qui n'avait pas été intégré à l'origine. C'est malin. Ouais. Le budget transport qui a été complètement dépassé hein, pour mettre à niveau toutes les infrastructures londoniennes.
Ils ont même dû racheter les bus à l'impérial.
Et aussi la facture des sites en construction. Alors pas tant pour des causes de retard parce que là actuellement au contraire c'est pas comme à Athènes, c'est-à-dire que les chantiers, comme on appelle le gros œuvre, il est bien fait. Hein. Il y a même déjà des manifestations sportives qui ont lieu. Là, ils ont inauguré il y a quelques jours la piscine olympique. Mais tout simplement, avec la crise, le prix du mètre carré il augmente, surtout dans une ville comme Londres. Et selon la Cour des comptes britannique, il ne resterait en fait dans le budget que 42 millions d'euros, ce qui est pas énorme pour un truc comme les Jeux Olympiques, pour parer aux imprévus. Ouais. On parlait de la CISA, il faut savoir que c'est pareil, ils ont créé un jeu pour générer de l'argent, pour récupérer de l'argent supplémentaire, parce que sinon ça aurait été terrible. Et pourtant, il faut savoir que malgré ce coût, c'est quand même pas les plus chers.
Bah, c'est Atlanta.
Parce qu'à Pékin, ils avaient mis 33 milliards d'euros.
Ah, mais ils ont du fric.
Ah oui,
j'ai fait 800 trilliards de yuan.
fallait tout raser, tout reconstruire.
Ouais, c'est à peu près ça. Voilà.
Pour qu'au final, ça ne serve à rien.
Oui. alors, en comparaison, j'ai parlé d'Athènes. Hein, le budget aussi, il avait été de 10 milliards d'euros. Et lui aussi, il avait explosé. Ce qui avait mis à mal les finances publiques grecques.
Oh.
Ah, bon, on comprend mieux pourquoi ils sont comme
voilà.
ça.
Et il faut savoir d'ailleurs que Rome, qui était une candidate sérieuse même pour 2020, choisit de se retirer parce qu'ils n'ont pas envie de finir comme Athènes et Londres.
Et si elle se retire, elle veut Sarkozy ou pas ?
Ah, on ne sait pas.
En ce moment, tout le monde sortir, il va Sarkozy, alors faut nous le dire.
Non, non, on sait les autres villes hein, qui sont candidates. Hein. Il y a Madrid. Alors Madrid, forcément, on s'inquiète aussi.
Oui.
Même s'ils annoncent des jeux low cost. C'est-à-dire que
Madrid, m'étonne. Madrid, Lisbonne et Dublin, allez-vous.
Il y a Madrid, il y a Istanbul, il y a Baku.
Ah bah, c'est pas des jeux qui vont coûter cher. C'est des jeux à Baku, ça coûte pas cher.
Il y a Tokyo, ouais, qui est candidat avec pour 2020.
Des jeux très brillants.
JO de Fukushima.
Ah non, mais
ah bah là, le mètre carré, il est pas cher.
Sérieux, les gars, pour tous les fans d'Akira, ça serait le pied. Parce que dans Akira, ça se passe en 2019. Et faut savoir que dans le manga, ils organisent les jeux, ils préparent les jeux de Tokyo en 2020.
Et non, parce que bien, c'est que là, ils n'auraient pas de problème pour allumer la flamme olympique.
Ah non, il n'y a pas de souci.
Le site sera la flamme olympique.
Et les derniers candidats, c'est Doha au Qatar qui veulent organiser leur jeu d'été au mois d'octobre.
Bah, ça va être Doha alors.
En hiver ?
Bah, en automne, comme les jeux de Sydney, Melbourne, ça avait été décalé pour des questions de température. Au plein mois d'août. Alors, faut savoir qu'à Rio, donc les jeux qui auront lieu en 2016, hein, le budget est actuellement estimé alors à 15 milliards de dollars, c'est-à-dire 11,4 milliards d'euros pour l'instant. À Sochi, bon, c'est des jeux d'hiver, hein, 7,6 milliards d'euros quand même. Hein, et à Pyeongchang, hein, qui accueilleront les jeux en 2018, c'est 7,1. Parce que ça coûte moins cher quand même les jeux d'hiver.
Oui.
Un tout petit peu. Un chouïa. Donc on verra, hein, est-ce qu'ils arriveront à gagner de l'argent sur les Jeux de Londres. Comme je disais, oui, il y a même des Londoniens qui se disent « C'est quand même con de parier et pas gagner les Jeux !»
Et les Parisiens qui se disent « Ah, chouette,
c'est bien qu'on a gagné les Jeux !»
Attraper 11 milliards, c'est quand même dur. Hein.
Bah, surtout que les Jeux, les comités d'organisation ne finissent pas forcément bénéficiaires à la fin. Il y a un autre grand exemple, c'est Montréal qui a payé pendant 30 ans ses Jeux.
Sacré crédit. Hein.
Donc voilà, c'était pour cette page Jeux Olympiques, mais budget.
Et j'ai trouvé très le lien entre tous les challenges, Shinji.
Bah, c'est qu'en fait, ça a rapport avec des choses qui auront lieu cette année.
Fallait pas le dire, Shinji, j'avais un avantage.
Tout simplement.
Non, j'avais un avantage, fallait te taire. Je crois peut leur donner des points gratuitement. Donc justement, au niveau points, 7,5 pour Cédric, 5 pour Gus, 3,5 pour Eric. Et la prochaine question peut vous en rapporter 2 points. Et cette question est la suivante. Qui a déclaré « Pour un grand champion, c'est une performance très navrante. J'aurais honte à sa place. »
Ah. Ça s'est sorti récemment.
C'est Loda à tout hasard.
Non.
Ah. C'est Sutil.
C'est pas Sutil.
À Berger, il a raconté beaucoup de trucs pendant l'intersaison.
Ah, c'est le père de Sutil.
C'est le père de Sutil. Bravo, Cédric.
C'est pour ça, quand t'as dit c'est pas Sutil, c'est pas exactement.
C'est effectivement le
père. Il avait un peu raison.
c'est Jorge Sutil qui a déclaré ça à propos de
Hamilton.
De Hamilton.
Voilà. Qui, nous rappelons-le, ne s'est pas présenté au procès d'Adrien Sutil où il a été condamné à 18 mois ferme, enfin 18 mois avec sursis et de 200 000 euros d'amende, c'est ça. Il a fait appel d'ailleurs, il me semble, et donc Lewis Hamilton n'était pas présent et Adrien Sutil a dit « c'est un lâche !» Officiellement, Lewis Hamilton devait se rendre à la présentation de la MP424 deux jours plus tard. C'est vrai que Munich, walking, c'était trop long, en traîneau et tout, c'était trop compliqué. Voilà.
Il a vu une conférence. Hein, voilà.
Donc Lewis n'est plus le copain Facebook d'Adrien.
Voilà. Sutil, sa fin de peut-être de carrière, en tout cas sa fin provisoire de carrière.
Son attitude de une fois le jugement passé, le lendemain soi-disant critiquer Lewis, c'était pas terrible quoi. Quand tu viens de te faire condamner à 10 mois de prison, tu fais plutôt c'est profil vrai. Bas plutôt qu'attaquer quelqu'un d'autre dans la presse quoi.
Ouais.
Non mais c'est sur un coup d'émotion à chaud.
Oui, je pense que voilà.
Je pense pas qu'il pense.
Ce qui est quand même. Moi, sincèrement, je comprends sa réaction parce qu'il pensait que c'était un ami, etc. Et ça le reste peut-être toujours. Maintenant, c'est vrai que le dire publiquement, en sachant que c'est quand même une affaire qui est très médiatisée, le dire publiquement, le lâcher comme ça, c'est vraiment dommage parce que c'est une affaire qui doit se régler entre hommes. Déjà qu'on en a beaucoup parlé de cette histoire et que c'est pas forcément super intéressant, même si ça explique la carrière de Sutil. C'était pas nécessaire pour lui de s'épancher autant dans la presse. Après, il fait que répondre aux questions. Hein. Je pense que la plupart des médias, ils sont allés aussi en lui demandant « Mais que pensez-vous de l'attitude d'Hamilton, etc. ?» Et à ce moment-là, à un moment donné, quand vous êtes déjà sous pression, vous la balancez, la réponse.
Ouais, mais t'es peut-être pas obligé aussi d'accorder des interviews, peut-être, alors, en ce
moment. Tout à fait. Puisque ça aurait changé grand-chose, faut quand même avouer que bon, sa ligne de défense, oui, je lui ai juste jeté du champagne. Bon, ça a fait 7 points de suture.
Surtout que c'est que quand même le gros problème pour Soutil, c'est que franchement, le témoignage d'Hamilton, je suis pas sûr qu'il aurait apporté quoi que ce soit, puisque d'après ce qu'on a pu apprendre, parce que c'était dans une soirée organisée par Lotus. Donc avec des témoins de chez Lotus, les mecs avaient quand même 25-30 témoins à leur disposition contre Sutil, D'Ambrosio et Hamilton. Bon, Hamilton s'est dit, bon écoute mon grand, je risque juste de t'enfoncer, hein, donc c'est peut-être mieux que j'y aille pas.
Oui, et puis Lewis Hamilton, fallait pas qu'il risque, de faire un faux témoignage, quoi. Il a déjà donné
ce côté-là. Bon bah ça nous donne 9,5 points pour Cédric.
C'est trop.
5 points de plus et 3 points de plus.
Là, je prends au moins 4 secondes sur toi, 4 secondes. Genre. Allez, je rentre au stand, je te laisse venir.
Et la question suivante, Shinji, elle est pour 2 points.
Tu veux pas la faire ?
Bah, si tu veux, je peux la faire. Hein. Ah oui, ah, d'accord, je sais pourquoi. Salaud.
Il y a un accent que je l'envoie.
Oui, voilà. C'est Shinji qui est meilleur dans les accents, moi je suis un peu pourri. Alors, bien sûr, messieurs, pour 2 points. Pour quelle raison la ville de Salpar, Interglem, a-t-elle été sous les projecteurs cet hiver ?
Il a fait froid.
Ça vaut 2 points.
Oui, il a fait froid. Je confirme. Non.
C'est dans un pays visité par la F1 ?
Non.
Qui sera visité par la F1 ?
Fait une démonstration, non ?
Qui pourrait être visité par la F1 et qui n'a pas fait... Enfin, en tout cas, dans l'objet de cette question, c'était pas dans le cadre d'une démonstration.
C'est pas dans le cadre d'une démonstration.
Mais c'est un pays qui pourrait être visité par la F1, qui l'a été par le passé, mais qui n'est pas actuellement.
Les États-Unis ?
Non.
Mexique ?
Non. La ville du Mexique, Salbar, Interglem. L'Autriche. C'est en Autriche.
L'Autriche. C'est Red Bull ?
Ah, c'est Sébastien Vettel qui a fait...
Non. Non. C'est le piège.
C'est à côté du Red Bull Ring ?
Non. Ben, peut-être, mais je sais pas. Enfin, mais...
Sur notre ring, ça n'a pas Red Bull.
Ah, ça en a...
Ils ont déménagé.
Ça en a
un,
Shinji, quand même.
De quoi, pardon ? J'ai pas entendu Shinji.
Shinji disait que ça n'a pas de rapport avec Red Bull. Je suis pas d'accord, ça en a un.
Ouais.
Ah, Shinji, ça en a un.
Ils ont fait l'équivalent du Vroom chez Red Bull ?
Non.
Là-bas ?
Mais ils auraient pu.
C'est en altitude ?
Ils ont donné des packs de Red Bull à la ville ?
Non.
C'est une station de ski ?
Je suis pas sûr. Mais bon, en Autriche, c'est quand même...
des chances,
toutes
c'est
les
vrai.
Villes, des chances. Les villes sont des stations de ski, plus ou moins.
Ils ont ouvert une usine là-bas ?
Non. Ça n'a aucun rapport avec Red Bull. Enfin, ça a un rapport avec Red Bull, mais lointain. Pas un rapport direct.
Est-ce que ma question sur le froid était pertinente ou pas ?
Oui.
Bah, oui.
Mais est-ce que ça
Disons que s'il n'avait pas fait froid, ils auraient eu l'air con.
Oui.
Ferrari a fait une sortie là-bas ? Non.
Il y a eu une manche de trophée en trance ?
Non.
Ils ont fait une sculpture de glace.
Alonso est parti skier là-bas ?
Non. Alors, la sculpture de glace, c'est intéressant. Vas-y, poursuis, Eric.
Ouais, ils auraient pu faire une sculpture de glace de F1.
Ah, non. Mais ça, et ça a un rapport.
Il y a un lointain rapport, mais il faut le savoir.
C'est un rapport avec une statue de glace, c'est ça ?
Non.
Non,
la statue de glace, on vous dit que c'est un rapport pour un peu vous perdre, mais ça a un lointain rapport. On vous l'explique.
Laisse tomber ça.
Peut-être, mais
ils sont tordus.
Voilà, on est tordus.
J'avais compris.
Donc, je rappelle la question. Pour quelle raison la ville de Salbar Interglem a-t-elle été sous les projecteurs cet hiver ?
Parce qu'il faisait nuit, donc il y avait besoin de lumière. Ils ont mis des projecteurs.
Alors, c'est vrai qu'il faisait nuit.
Il y a eu une descente au flambeau ?
Non. Quoique.
Oh, yo.
Il y avait une course de nuit ?
Oui, il y avait une course de nuit, oui. Oui, oui.
Une course de motoneige.
Une course organisée par la
Alors, qui a dit une course de motoneige ?
C'est moi, Gus.
Alors, Gus, oui, une course de motoneige.
Ah, oui. C'est là où s'est cassé la figure qui m'a reconnu.
Bravo, Eric.
Ah, oui.
C'est cet événement qui a failli bouleverser la F1.
Ah,
parce que Kimi Räikkönen a eu un petit accident. Hein. Bah, il s'est viandé la gueule. Magnifique. Sincèrement, quand on dit Kimi Räikkönen, il a eu un accident, on s'attend à un truc spectaculaire. En fait, non, il s'est... Il est tombé par terre.
Il s'est pas pété la jambe.
Voilà. Il est tombé par terre, il s'est foulé le poignet. Ça a fait des gros titres. C'était waouh. Et effectivement, ça s'est passé lors d'une manche championnat de motoneige autrichien ou un truc dans le genre, à laquelle participait Kimi Räikkönen, sans doute sous le nom de James Hunt, puisqu'il avait déjà fait ça en 2007 avant d'arriver chez Ferrari. Une semaine avant, hop, allez, je vais faire un petit tour de motoneige. Et donc, effectivement, bon, ça a un lien avec Red Bull parce que Kimi était sponsorisé par Red Bull en rallye. Et ça a un lien avec une sculpture de glace parce que certains se rappelleront peut-être qu'à l'époque de McLaren, il y avait eu ce grand moment vodka glaçon où on avait mis, je crois que c'était à Monaco.
Il y avait ça, puis il y avait aussi le Galaifia quand elle avait été champion du monde. Il y avait eu la Ferrari et une F1 en glace.
Voilà, ils avaient mis une F1 en glace et vous aviez Kimi dans la F1 en glace qui trouvait que le glaçon était peut-être pas assez vodkaisé.
Vous êtes tordus les mecs. Hein.
Et donc cette question nous permet de reléguer quand même Gus Gus en dernière position. Hein.
Youpi.
Puisqu'Eric, tu te retrouves avec 5 points et demi devant Gus, 5 points.
Là, je demande un Kers.
Donc voilà, alors le retour de Kimi, c'est l'objet de cette question. Hein. Donc chez Shinji, on va pas laisser parler, ça va durer 3 heures. Mais vous, quelles émotions ça suscite chez vous?
Rien. Vous avez vu, il est en tête, il m'a dit c'est...
Rien.
Oui, mais Kimi, pour moi, il a pas de voiture.
Ah, moi, je suis super content qu'il soit revenu. Hein. J'attendais que ça, d'ailleurs.
Oui.
Parce que franchement, non, sérieusement.
Non, mais c'est vrai que tout le monde est très heureux de revoir Kimi. Je sais pas ce qui nous manquait.
En tout cas, il sera mieux en F1 qu'en rallye. Hein.
Il a d'ailleurs déclaré qu'il avait refusé une offre de plusieurs millions pour courir en NASCAR.
Ouais.
On l'aurait vu 36 fois.
Oui, pour ça, j'aurais préféré qu'il y ait un NASCAR.
Ça permettra de voir, de belles manœuvres. Quoi. Il a les couilles pour les faire. Quoi.
Oui.
Et le DRS.
Oui, d'ailleurs, le DRS qui n'aime pas du tout.
Ouais. C'est pas étonnant, plutôt de sa part.
Ça fait des boutons en plus à appuyer.
Oh, il va gérer. Hein.
Oui, s'il est sobre, ça peut le faire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que chez Lotus, il y a sans doute des restes de la vodka de Vitaly Petrov. Je me dis, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a choisi Lotus. Il s'est dit, attends, je vais remplacer Petrov. Chez Williams, je vais remplacer Barrichello. Je vais tomber sur des trucs brésiliens.
Ah, la caipirinha.
Ah ouais, c'est pas bon. Mais quand même, lui, il est plutôt vodka. Donc il s'est dit, je vais aller voir les restes. Et là, manque de bol, il arrive chez Lotus. Plus de suspension et plus de vodka. Putain, la vache.
Il aurait pu se consoler avec la vodka pourtant. C'est dommage.
Ouais.
Il n'y a pas de suspension.
D'ailleurs, cette affaire des suspensions, on ne sait pas. Parce que on nous a dit que c'était les accroches du moteur, puis maintenant on nous dit que c'est les suspensions.
Ouais, mais les accroches, c'est quelqu'un d'extérieur à l'écurie qui disait ça. Après,
oui,
c'est une hypothèse.
Mais là, c'est aussi le cas.
Le soir même.
Apparemment, Lotus ne dit rien. C'est juste ce que rapporte Automoto en sport, je crois, qui avait déjà rapporté ça il y a quelques temps. Quoi.
De toute façon, personne ne dit jamais rien. Regarde la crevaison de Vettel à Abu Dhabi, on ne saura jamais. Ils diront rien.
Sniper.
Un sniper.
Non, d'ailleurs, c'est pas la première fois que ça lui arrive, ce genre de choses. Sur les Red Bull, dans les premiers tours, quand il passe sur les vibreurs, ça aurait déjà arrivé 2-3 fois de crever comme ça.
Non, de toute façon, Kimi doit gérer un problème bien plus important. Pourquoi tout ce blanc sur ce casque?
Oui, ça, Shinji est en deuil, hein. Il faut le dire.
Oh là là.
La première phrase que m'a dit Shinji quand on s'est vu après son roulage en fin janvier, il m'a dit « Mais j'espère que ce casque-là, il va en changer. »
Très belle analyse, Shinji, bravo.
Bizarrement, comme pour faire chier Shinji, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à aimer le casque. J'ai dit « Ah, c'est vrai qu'il est pas mal en plan comme ça. »
Et pour l'instant, c'est toujours le même. Non, j'ai envie de pleurer.
Il est pas si mauvais que ça.
Non, mais c'est surtout que ça change, quoi. C'est habituellement, il y a des choses plus sombres, plus colorées. Noir et rouge, quoi.
C'est vrai que là, il aurait pu faire noir et or.
Oui, voilà.
Ouais, noir et crème. Ils disent crème dans leur communiqué de presse.
Parce qu'ils se sont rendu compte qu'en fait, la couleur dorée ne passait pas bien à l'écran. Donc, ils ont préféré mettre du beige crème. Voilà. Donc maintenant, on peut plus dire les noirs et crème. On doit dire les noirs et crème.
Après, la HRT chocolat, la Renault crème. La Lotus crème.
Non, et puis comme ça, avec le Kimi, ça fait ice cream.
Ah oui. J'applaudis.
Ah, c'est... Alors là, bravo.
Bravo.
Ah, c'est joli.
Ça mérite un point.
Ah non, surtout pas.
Je déconne.
On va passer à la question suivante pour un petit point.
Et une question citation, encore une fois. On aime bien les citations dans le SAV. Oui. Qui a déclaré « Nous y sommes presque »
Dominique Ali.
Non. Non, ils sont pas loin d'y être.
Williams,
non. Ah, je pensais que celle-là serait plus rapide, tu vois, j'ai dit.
C'est pas Rosberg.
Non, c'est pas Rosberg.
Non.
Schumacher.
Non.
En parlant de sa fin de sa carrière.
Non.
Non, parce qu'il paraît que Schumacher, il pourrait replonger de deux ans.
Oui, mais on n'a jamais été aussi près de la fin de la carrière de Schumacher.
Oui. Vous vous rendez compte qu'on pourrait avoir la fin du monde avant la fin de la carrière de Mickey Schumacher.
C'est pas Di Resta.
Non, c'est pas Massa.
Non, Di Resta.
Ah, Di Resta non plus.
Grosjean.
Grosjean non plus.
C'est un pilote Boulier. Ou pas?
C'est pas un pilote.
Non.
Horner.
Non. J'ai entendu Boulier tout à l'heure, c'est ça?
Ouais.
Non, c'est pas Boulier. Non.
C'est Tost?
Non.
Superman?
Non.
C'est quelqu'un qui est impatient en tout cas parce qu'il pense qu'il a du potentiel.
Il est sans doute impatient.
Même s'il verra peut-être pas la concrétisation.
Fernandez?
Non. Mais non, il n'y a pas Caterham dans la phrase.
Ah. Ça va être une grande citation de l'année.
En même temps,
ça.
En même temps, tu le mets où Caterham dans la phrase?
On y est
nous
presque.
Nous y sommes Caterham. Presque Caterham.
Bonjour, madame, pouvez-vous me donner une baguette de pain Caterham? Voilà.
Ah, David Douillet, David non, Douillet.
Bravo, c'est David
Douillet. Ah oui.
Et c'est David Douillet à propos du
Grand Prix,
du Grand Prix de France qu'il ne verra peut-être pas. Oh, c'est dommage.
Oui.
Peut-être pas.
Quel bon ministre.
Ah ouais, c'est vrai.
Donc voilà, le retour probable du Grand Prix de France. Donc il a dit que ce qui manquait pour le moment, c'était 2-3 millions, je crois, et puis de trouver l'accord avec avec certaines villes du sud. Alors j'ai pas compris s'il s'agissait de trouver un accord pour le circuit ou pour ouais, des villes environnantes au Castellet pour les hôtels.
Financement, ouais, et hôtels. Ouais.
Donc voilà, vous retour du Grand Prix de France. Bon, je vous demande pas si vous êtes pour.
Bah déjà, faut que ça soit signé.
Oui.
Et c'est pas, enfin, justement, vu la période auquel on arrive.
Il a aussi dit qu'ils attendaient de savoir ce que nos amis belges allaient faire, parce qu'on est aussi un peu dépendant de la volonté d'alterner en Belgique.
Mais je crois qu'ils sont ok pour ça.
Bah oui, ils avaient l'air plutôt pour, donc théoriquement, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème.
Mm-hmm.
Et donc, vous, le Castellet, ça vous dérange? Parce qu'on, enfin, y a certains qui ont parlé un peu.
C'est un peu loin de la Réunion.
Ouais, on peut venir. Non, moi je pense que temporairement relancer le circuit, le Grand Prix pardon, ça serait bien, et puis éventuellement en faire un nouveau
direct
sur le long terme, ouais, pourquoi pas. Mais d'ailleurs je crois qu'à la base c'était ça l'objectif, d'en faire un nouveau.
Oui, dans la région parisienne.
Il y a eu plein de projets, oui, sur la région parisienne.
Le problème c'est que les projets écologistes
Non, dis-le que les écolos à chaque fois cassent les couilles.
Non mais ça non, je dirais pas.
Ah. Vas-y, fais-lui une imitation d'Eva Jolie.
Ah, vas-y, je vais entendre ça.
Eva Jolie, bonjour. Votez pour moi.
Bah, je ne veux pas que Formule 1 France, ça produit. Mais pour revenir au Castellet, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est quand même les routes d'accès. Enfin, même s'ils disent qu'ils ont fait des simulations, tout ça, lors des meetings de Formule Renault 3.5 ou quelque chose comme ça. La route d'accès elle est vraiment petite, quoi. Enfin, c'est...
Mais ça a toujours été un problème, oui, c'est vrai, en plus.
Donc c'est vraiment quelque chose qu'il y a à voir.
Bah, ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, il y en a une.
Bah, mais Nico Rossi, mais c'est la nationale.
Oui, c'est vrai. Ah, mince, j'ai oublié. Tu vois, faut qu'on la classe, parce que sinon, on l'oublie. Et justement, pour rebondir un peu sur construire un circuit, il y a une question dans l'interview décalée qu'on propose sur Fan F1, qui est un nouveau pays veut construire un circuit et confier le dessin à un pilote. Si vous deviez choisir un pilote pour concevoir le circuit, lequel vous prendriez?
Alonso.
Donc Alonso.
Moi, je fais pas de spiritisme comme Denis Fernandez là, parce qu'il veut appeler Ayrton Senna. Vettel. Moi, Vettel.
Ouais.
Non, plus sérieusement, moi je dirais Petrov.
Mais non, voyons. Vous demandez à Kimi, avec un peu de bol, il va dessiner le truc alors qu'il sera complètement pété.
En forme de
Il va nous sortir un circuit du feu de Dieu.
Ce qui m'inquiète, c'est que même sobre, il risque de prendre un futur Suzuka ou un futur Spa, quoi. Et toi, Eric?
Ouais, je sais pas. Peut-être Schumacher.
Oh, le circuit de merde.
Lui va faire un circuit pour les chevaux. Lui.
Un circuit qui s'arrête jamais. Oh. Ah oui, tu t'arrêtes une fois pendant 3 ans et après tu continues.
Un circuit avec plein de murs pour tasser tout le monde.
Tous ses meilleurs virages.
Voilà, avec en plus la ligne droite de la Hongrie. L'épingle à Adélaïde, l'épingle à Gérèse. C'est déjà pas mal. La Rascasse, évidemment, le grand spécial de Schumacher.
Mais non, mais ça, c'est vraiment pour les stands. Tu vois, on mettra les stands à stand. Voilà. Ce quitte à s'arrêter, autant s'arrêter qu'à un seul endroit du circuit.
Et le feux virage Schumacher du Nürburgring.
Oui.
Schumacher, quand même, le premier pilote à courir sur son virage. Ici, c'est chez moi. Il arrive là.
C'est d'ailleurs pour ça que c'est un endroit où il peut tasser les autres. T'es chez moi.
Règlement spécial.
Oui, c'est un endroit où tu payes une taxe carbone. Donc ça nous fait au classement 10,5 pour Cédric, 5,5 pour Eric et 5 pour Gus Gus. Et la question suivante, Suzy, est pour 2 points.
Qui a dit « Si vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment, il n'y a rien que vous puissiez faire ?»
Quelqu'un qui sait pas faire les liaisons.
Non, ça c'est moi.
J'imagine que je me rends compte, Suzy, qu'il pourrait y avoir plusieurs auteurs à cette question.
Oui, c'est une phrase hautement philosophique qui dit oui, en gros, bah ouais, si
Vous pouvez la répéter parce que.
Oui, à tort.
Si vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment, il n'y a rien que vous puissiez faire. Tu vois, avec les liaisons.
Ça pourrait s'appliquer à tous ceux qui se sont trouvés à moins d'un mètre de Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton.
Oui. Vous dire
ça, ou Schumacher.
Non, plus que Lewis Hamilton ces derniers temps.
C'est un pilote.
C'est un pilote.
C'est un pilote.
Weber.
Non.
Petrov.
Non.
Pilote actuel.
Ah non, on répondra pas. Ça sera trop simple. Vous savez déjà que c'est un pilote. Après, sinon, il n'y a plus de jeu.
Raikkonen.
Ah non. Ah.
Trulli, il était au mauvais parti au mauvais moment.
Non.
Ça n'a pas été cité lors des essais de GRL, ça ?
Ah, ça, c'est assez récent. Mais ça n'a aucun rapport avec les essais eux-mêmes.
D'accord.
C'est De La Rosa, non ?
Non, mais lui, il est au mauvais endroit, au mauvais moment.
Oui, mais c'est pour ça que je cite.
De La Rosa qui a eu une... Non, je vais peut-être la garder... Non, moi, je peux vous la dire. De La Rosa qui a quand même eu une superbe citation en disant, en parlant de son coéquipier, « Je ne voulais pas un coéquipier qui ne pense qu'à me battre. » Oui, en même temps, t'as pas envie d'un peu non. Oui, je veux un mec qui pense à l'équipe et pas seulement à me battre. Oui, bah oui.
Ah, Bernie Ecclestone, c'est Bernie Ecclestone qui a dit ça, non ?
Non.
Même pas.
C'est Soutil.
Non. Ça serait plutôt Eric Lux qui l'aurait dit ça.
Ah, c'est Hülkenberg ?
Non.
Boulier.
Non.
Est-ce qu'en disant ça, il parlait de lui-même ou
c'est
de
pas quelqu'un Barry
qui a fait un mauvais choix ?
Il parlait de lui-même.
Ah non, c'est un pilote.
Pardon ?
Barrichello ?
Il parlait de lui-même et ce n'est pas Barrichello.
Button ?
Non.
On va tous les faire.
Alors, désolé, donc, c'est quelqu'un qui a eu des opportunités dans sa carrière ? Comme ça ?
Oui. Tu sais, j'ai envie de la rabaisser à un point, cette question, et de dire que même quand on pose une question sur lui, on ne pense pas à lui.
Rosberg.
Rosberg. Même quand on pose une question sur lui, il est invisible. C'est Rosberg.
Voilà.
Donc, ouais. Je ne donne qu'un point parce que j'ai donné un gros indice quand même.
Indice, oui.
Ah, Nico.
Et qui parlait bien sûr à propos de. Tiens, pour un deuxième point, il parlait à propos de quoi ?
De Soutil ?
Non.
Ah, je crois que c'est sorti de. T'as lié à un accident, ça ?
Non. Non, on a dit c'est pas lié à Hamilton. Si vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, il n'y a rien que vous puissiez faire.
Il parlait des petites équipes de...
Il parlait d'équipe, oui.
Toro Rosso, il parlait des pilotes Toro Rosso ?
Non.
Ah, il parlait de Barrichello, ça, non ?
Non.
De Sam Burr. Il parlait de Sam Burr.
Non.
Non, de Weber.
Non. Le pire, c'est qu'avant, on leur a donné directement la réponse, c'est dire.
Bah, Rosberg, il parlait de lui-même.
Oui, et donc il parlait de...
Ah, des problèmes de la Mercedes ?
En partie.
Non, ouais, plutôt de son statut chez Mercedes.
Il parlait de Schumacher ?
Non, Schumacher. Non.
Bah, de lui, alors.
Oui, de lui, mais pas.
Il parlait de son statut chez Mercedes en tant que deuxième pilote.
Il parlait un peu de Mercedes, mais il parlait surtout
de Williams.
De Williams.
Ah,
voilà.
Ouais, c'est vrai, c'est un
alors que Williams. Techniquement, ses déclarations s'appliquaient à Williams, mais elles pouvaient aussi s'appliquer à Mercedes. Donc ça nous fait 2 points pour Gus.
On remonte.
Ce qui nous fait 10,5 pour Cédric, 7 pour Gus et 5,5 pour Eric.
Rien n'est joué.
Oui, rien n'est joué. Ouais. Hey, c'est serré, je veux dire. Enfin, en même temps.
Ouais.
Faut qu'il m'affronte. Rosberg, je sais qu'on a eu un débat cette semaine, je crois que c'est vendredi après-midi lors du live des essais, où on se posait cette question où j'ai osé dire que je trouvais que Rosberg, pour moi, était un peu meilleur que Lewis Hamilton au sens où il était un peu plus complet. Est-ce que vous pensez, vous, que Rosberg est un pilote, peut-être mésestimé, qui aurait mérité depuis quelque temps déjà de se battre parmi les meilleurs ou c'est un pilote qui est un peu surcoté ?
Ouais, je pense que vraiment qu'il mériterait de quand il aura une bonne voiture. Hein. Oui. Il mériterait vraiment.
C'est dommage de pas le voir plus
en avant.
Ouais.
Non mais je trouve que vraiment Rosberg, je vais pas dire que c'est un mauvais pilote, hein, mais je pense qu'il a des capacités pour vraiment s'il a la voiture qu'il faut de jouer des podiums. Hein. Là, il me fait plus penser à Nico Hülkenberg en ce moment.
Bah, c'est plus sur sa lancée de la fin de la saison 2011 où il avait vraiment rien à jouer, quoi. Donc, maintenant qu'il va y avoir un réel enjeu, si la Mercedes est le haut niveau, je pense qu'il peut faire quelque chose.
Oui, je suis assez d'accord.
Ouais,
moi, je pense que il y a beaucoup de gens ont dit que Schumacher avait été meilleur que Rosberg. Je pense aussi qu'on oublie le fait que je pense que Rosberg en a eu un peu ras-le-bol sur la fin de saison et qu'il a fait un peu ce qu'avait fait Kubica il y a quelques années. Il a fait la fin de saison un petit peu par-dessous la jambe et que si vraiment la voiture cette année est bonne, il fera peut-être plus de mal qu'en fin de saison dernière à Schumacher.
C'est sûr.
De toute façon, ça fait quand même 2 ans qu'il fait mal à Schumacher.
Ah mais l'an dernier l'écart de points était beaucoup 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 plus petit. Je crois même qu'à quelques grands prix, Schumacher pouvait encore passer devant.
Ouais, bon, parce qu'il a eu quand même des abandons. Il a eu 2 abandons, je crois, l'année dernière. Bon, c'est sur casse mécanique. Hein. Tandis que, mais il faisait régulièrement, bon, c'était plus une demi-seconde, mais c'était quand même 3 dixièmes devant Schumacher, quoi. Mm. Donc, effectivement, moi, je pense que, ouais, que Rosberg, s'il y a une voiture, une bonne voiture, ouais, il peut faire des trucs, quoi. Il devrait sortir son épingle du jeu, quand même.
Alors, j'ai dit, on passe au troisième challenge.
Au troisième challenge.
À cette troisième occasion de ne rien marquer, merci, messieurs.
C'est honteux. Un tel comportement est honteux, scandaleux. Je n'ai pas peur des mots, monsieur.
Et donc, ce nouveau chiffre, c'est le chiffre 3320.
C'est le nombre de cheveux qui restent sur la tête de Bernie Ecclestone et je gagne.
Alors, par un deuxième hasard incroyable, c'est aussi, en effet, c'est une bonne réponse, mais ce n'est pas ce que je demande.
Non. Peux-tu rappeler le chiffre, s'il te plaît, à cette gifle ?
3320.
2872. Donc, c'est un rapport avec un événement qui va se passer cette année.
C'est un rapport avec 2012.
3320.
Donc c'est 2012 plus 1318.
C'est un nombre de kilomètres,
c'est
une unité de mesure.
Non, non et non.
Ah, d'accord.
C'est une durée.
Ce n'est pas une durée.
C'est 3320 quelque chose.
Oui, on peut même le décomposer. C'est 2435 plus 885. Mais ça vous aide pas.
C'est le nombre de personnes qui vont assister à un match de foot.
C'est un nombre de personnes.
D'habitants d'une ville ?
Pas d'habitants d'une ville.
Ah, c'est le nombre de personnes qui vont assister à une fête de sadomaso.
Non.
Ça sort.
Enfin, je ne crois pas.
Quel est l'événement sadomaso que tu connais en 2012, s'il te plaît, Cédric ?
Non, non, mais c'est parce que je suis en train de penser à un truc sorti dans une des émissions, la fête nationale de sadomaso.
Ah, oh.
Comme ça.
C'est vrai. Oui, on en avait parlé, je crois.
C'est des gens qui sont chanceux ou pas de faire partie de ce club, de ces 3000 personnes ?
Non, ils sont pas chanceux.
Ah, c'est des détenus.
Non.
Et ils auraient eu un moyen d'y échapper à faire partie de ces 3300 personnes ?
Oui, techniquement, oui, ils auraient pu ne pas en faire partie.
Est-ce qu'ils payent pour faire partie ? Est-ce qu'ils ont payé à un moment donné pour en faire partie ou pas ?
Ils ont payé.
C'est pas les gens du Stade de France.
Ah, c'est un concert. Match. Pour un concert ?
Non.
Rien à voir avec le match France-Irlande, alors.
Non.
C'est quelque chose qui a été annulé et auquel ils ne pourront pas participer.
C'est pas quelque chose qui a été annulé.
C'est le concert de Johnny ?
Ça concerne pas un concert.
C'est politique ?
C'est pas du tout politique.
C'est une fête ? C'est un rapport avec une fête ?
Non, j'espère pas.
Ça n'a pas un rapport avec une fête. Hein.
Donc attends, c'est des gens qui ont payé ?
Pas tous.
Pas tous. Il y en a 2000 qui ont payé et 1000 qui n'ont pas payé, qui étaient invités.
Oui, tout à fait. Qui n'étaient pas invités.
Ah, des gens qui ont acheté un ticket pour Bahreïn. Quand il y a le Grand Prix de Bahreïn.
Non.
C'est pas pour les funérailles de Whitney Houston, non ?
Ce ne sont pas les funérailles de Whitney Houston.
C'est un événement qui s'est passé ou c'est un événement qui va se passer
et... C'est un événement qui s'est passé.
C'est passé cette année ou l'année dernière ?
Cette année.
Ni cette année, ni l'année dernière.
Donc ça remonte plus loin, alors.
Oui, ça remonte plus
Mais
loin.
Mais ça a un rapport avec 2012.
Dans le passé.
Oui.
C'est le nombre de gens qui sont allés voir le film 2012.
Non.
C'est le nombre de personnes qui ont payé pour un match de foot qui n'a pas eu lieu.
Non.
C'est un rapport avec le sport ?
J'ai envie de dire oui, mais non.
Ça, c'est sexuel ou dans le genre.
C'est une connerie.
Attends, 3320, ça s'est passé il y a pas mal de temps.
Si je reviens sur ce que tu as dit, c'est 3300 personnes. Mmh. Elles ont assisté ou pas, ou fait ou pas.
Elles ont assisté à quelque chose. Elles ont vécu quelque chose.
Elles étaient en même temps au même endroit pour,
oui,
pour assister
même
à quelque
endroit.
Chose.
Oui.
Mais elles n'ont pas de chance de l'avoir vécu.
Non, elles n'ont pas de chance de l'avoir vécu.
C'était un spectacle ou c'était quelque chose qui était réjouissant à voir dans son ensemble et de l'intérieur il y a eu un problème ou c'était...
Concordial.
C'était, oui, quelque chose, en effet, qui aurait dû bien se passer.
C'est le Titanic. Las Vegas, Dan Weldon.
C'est le Titanic.
C'est les... Oui.
Ah, mais oui.
Et oui.
Ah, je suis bon.
Le 15 avril 1912, il y a 100 ans, sombrait le Titanic.
Ah, je suis bon. 15 ans.
Et donc, voilà. Il y avait 3320 personnes, 2435 passagers qui ont payé et 885 membres d'équipage qui n'ont pas payé.
Ah, joli.
Voilà.
Beau celui-là.
Ah. Et donc, quand tu m'as dit si c'est bien avec le sport, bah oui, avec l'apnée. Il faut savoir que dès le naufrage, hein, on a eu dans l'idée de renflouer l'épave dès 1912. Sauf qu'à l'époque, bah, les techniques le permettaient pas et puis on savait même pas réellement où était le bateau. Parce qu'on savait pas à l'époque où il avait coulé. Et il a fallu attendre 1985 pour retrouver l'épave du Titanic grâce à l'équipe du professeur Robert Ballard. Donc l'épave est, en fait, elle est en deux morceaux, hein, qui sont séparés d'environ 800 mètres l'un de l'autre.
Hein, on a tous vu Titanic, Shinji.
Eh oui, voilà. et donc, faut savoir que depuis 87, hein, de nombreux objets ont été remontés, ce qui fait un peu polémique parce que c'est un peu piller une épave quand même, enfin surtout un lieu où sont quand même morts des milliers de personnes.
Est-ce qu'ils ont retrouvé le cœur de l'océan ?
Non, ça ils le cherchent toujours, parce qu'il faut savoir que la société officielle qui s'occupe, hein, qui est officiellement propriétaire, eux officiellement ils ne vendent que les bouts de charbon,
ouais,
qui servaient à la chaufferie pour financer justement d'autres expéditions, et que l'épave elle est en train de disparaître, pas tant à cause des profondeurs et de la pression qu'il y a dans ces lieux, mais justement à cause des visites. C'est-à-dire que l'homme, même là, finalement, à des milliers de mètres de profondeur, l'homme dégrade l'épave du Titanic. Et ils estiment qu'entre 2025 et 2050, l'épave peut-être n'existera plus.
Alors, je tiens à rendre hommage, je crois que c'est à Cédric qui a parlé du Concordia.
Oui.
Ce qui m'a fait me dire, ça fait le lien dans ma tête.
D'accord.
Mais tu n'auras pas de points.
Hein. T'es fort, dinosaure.
Allez, ouais, t'as vu, je suis en feu. Donc au classement, hein, toujours inchangé, messieurs, désolé. 10 points et demi pour Cédric, 7 points pour Gus Gus et 5 points et demi pour Eric. Mais tout reste ouvert puisque nous avons une nouvelle question. Et c'est d'ailleurs la dernière série de questions, monsieur. Il nous reste 5 questions et ce sera la fin de cette émission. Nous connaîtrons celui qui nous accompagnera à Melbourne. Et la prochaine question, elle vaut 2 points plus 1. Et elle est la suivante. Qui a avoué sa préférence pour les 4M ?
Les 4M, c'est des noms d'écurie ?
Non.
C'est 4 choses qui commencent par M.
Oui, tout à fait.
C'est des noms de pilotes, alors ?
Non.
C'est un sportif qui a dit ça ?
C'est un sportif, oui.
C'est quelqu'un qui voulait dire 4L et qui s'est trompé de lettre.
Non.
Tu nous emmerdes avec ta question avec 4M, hein, merde.
Si vous trouvez ce que sont les 4M, vous avez 4 points. Vous avez 2 points.
Oula.
1,5 point par M.
C'est les 4 écuries majeures de 4 majors ?
C'est bien tenté, mais non.
C'est quoi, c'est un blog ?
Non.
Si ?
Oui, mais non.
Un restaurant ?
Non.
Un gâteau ?
Non, mais
c'est 3M,
là,
c'est 3M qui aurait changé de nom.
C'est quoi ?
C'est à nouveau un rapport avec la F1.
Enfin.
C'est 3M qui aurait changé de nom ?
Non. Je veux dire que récemment, il y avait 3M, mais c'est revenu 4M. C'est-à-dire qu'il y a eu 4M, 3M, 4M.
Et c'est pas des écuries.
C'est pas des écuries.
Parce que mon Virgin est devenu Marussia, ça a rajouté un M.
C'est un sponsor ?
Non.
Et aujourd'hui, il y en a 6 ? Il y en a combien ?
Aujourd'hui, il y en a 4.
Il y en a 4.
C'est un rapport avec le poids ?
Donc c'est pas le nombre de champions du monde ?
Non. Et non. Alors je vérifie s'il y en a pas un cinquième.
Il y en a eu.
Il y en a eu.
Mais il n'y en a plus.
Ah, quoique, oui, on pourrait en considérer un cinquième, mais c'est pas sous ce nom-là qu'on le connaît.
C'est un nombre de grands prix ?
Non.
Est-ce que c'est un rapport avec les voitures ?
Non.
Les circuits alors ?
Oui, ouais, ouais, on va dire ça, ouais, c'est un nom de circuit. Donc les 4M, c'est 1,5 point par M.
Les 4 fantastiques.
Ah, le nombre de, c'est les quatre grands prix qui commencent avec un S.
Oui, c'est-à-dire
Montréal.
Montréal pour Gus.
Malaisie.
Ah, Malaisie, non. En tout cas, pendant ce.
Monaco.
Monza.
Donc ça fait 0,5 points chacun.
Et, bah, dommage qu'il n'y ait pas Manicourt.
Musica.
Melbourne.
Oh,
Melbourne, ouais.
Voilà. Donc, ça nous fait 1 point pour Eric, 0,5 pour Gus et 0,5 pour Cédric. En sachant qu'on aurait pu aussi rajouter Montmelo, mais c'est pas sous ce nom-là qu'on connaît le Grand Prix de Barcelone.
Donc la question c'est
qui a avoué sa préférence pour les 4M, donc c'est-à-dire pour Melbourne, Monaco, Montréal et Monza.
Ekeston.
Non.
Est-ce que c'était dans le même type d'interview que Tony Fernandez ?
Non, parce qu'il n'y a pas 4M.
Schumacher.
C'est pas Schumacher, non.
Montréal, Melbourne, Monza.
Weber. C'est Weber. C'est effectivement Marc Weber qui nous disait qu'il préférait ces quatre grands prix-là, hein, le Grand Prix à Melbourne, le Grand Prix à Monaco, le Grand Prix à Montréal et à Monza, notamment pour l'ambiance. Voilà, c'était des endroits uniques et que voilà, il adorait y aller.
Cool, merci Marc.
Mais je t'en prie.
Donc ça fait notamment partie des grands prix où il aimerait gagner.
Bah de tous, il n'y a qu'à Monaco qu'il a gagné.
Oui. Puis Melbourne, si Melbourne y gagnait, ça sera la fête.
Ah là, oui.
Ah, c'est
en 2002, c'est comme s'il avait gagné.
Oui, il avait marqué un point.
Oui.
Deux points avec Nardi. Ouais. Donc ce qui nous donne au classement 12 points pour Cédric.
12 ou 12 et demi ?
Non, parce que t'as gagné un point et demi.
Ah, d'accord.
Ah, j'essaie de récupérer les demi-points où je peux. 6 points et demi pour Eric et 7 points et demi pour Gus. Tu me diras, j'ai récupéré un demi-point chez Cédric, mais je le redonne à Gus. Super. Donc voilà, Marc Weber, pour la saison, vous en pensez quoi de lui?
Oh, bah, j'espère qu'il va pouvoir jouer quand même. Hein.
Oui.
Non, sincèrement, je pense vraiment qu'il mérite, hein, et puis qu'il se donne un peu à fond.
Faut qu'il résolve ses problèmes de départ.
Oui.
Ouais, déjà ça. Faudrait que son cœur se marche. Hein.
Oui.
Faut déjà ça.
Bah, moi j'espère, mais j'y crois pas trop, quoi.
Ouais.
Ça fait deux saisons qu'il se fait un peu avoir, quoi. Enfin, pas avoir, mais deux saisons qu'il y arrive. C'est pas qu'il y arrive pas, mais c'est. Bah, en tout cas, l'année dernière, il y est pas arrivé. Je crains que ça ait joué un peu sur son moral, quoi.
Ouais. Non, c'est une nouvelle année qui commence. Faut attendre pour voir. Mais
et vous le voyez où en 2013?
Oh, bah, je pense qu'ils vont le faire aussi. Un
à Melbourne, dans une maison.
Ah, je le vois pas arrêter, moi.
Non, il fera quelque chose.
Bah, de la couture.
Au Mans.
Ouais, pourquoi pas revenir au Mans, ouais.
Il va piloter pas
avec Mercedes.
Eric,
une question.
Rien à dire sur Marc Weber?
Non. Je pense qu'il sera derrière Vettel, et puis je pense que quand même, je pense que ça sera sa dernière année. Quoi.
Mais il sera derrière Vettel, comme tout le monde ou...
Ouais. Non. Je pense que ça sera beaucoup plus serré quand même cette année.
Il peut pas faire pire que Massa, je pense, par contre.
Ah, sauf si on lui dit Marc.
Sébastien Vettel.
Non, Marc, ne le crois pas, c'est Ferrari qui pirate ta radio. Tu te le bien, Marc, nous jamais on te dirait ça, on prendrait juste ton aileron avant. D'ailleurs, c'est vrai, Marc, on se disait aussi depuis tout à l'heure, ça fait 20 tours que tu roules sans aileron avant, c'est bizarre. Oui, c'est ça le problème, c'est que cette année, ils ne verront plus les ailerons avant, les mecs.
Ah non.
Avec le truc, donc tu pourras très bien laisser le pilote partir sans aileron avant, le mec, il ne le saura jamais.
C'est pour ça que McLaren, ils ont fait le nez comme ça pour Hamilton.
Ah oui, j'ai adoré Lewis lors de la présentation. Les rétroviseurs, ils sont plus grands, donc Massa, il sera bien content.
Voir mieux.
On peut voir mieux.
Alors, question suivante pour 3 points.
Oui. Qui va succéder à son grand-père 52 ans après?
Bianchi?
Non, mais c'est vrai que ça pourrait succéder à son grand-père et à son oncle.
On parle toujours de la fin.
Oui. Ben oui. On parle de sport auto en général.
C'est aux États-Unis?
Non.
C'est un pilote actuel?
Oui, c'est un pilote actuel.
Mais le fait que tu dis de sport auto en général, ça subodore que ce soit pas de la F1?
Bah, ça a un lien avec la F1, mais ça n'en a pas, ça a pas un, voilà, c'est pas que de la F1.
Il va
pas lui succéder en Formule 1.
D'accord.
Pour être parfaitement clair.
D'accord.
Ah, j'aime bien quand tu fais ah, Cédric. C'est qu'il a une réponse, mais qui est pas la bonne.
Non, c'est pas un truc.
Un peu de respect pour le leader du classement.
Ah, c'est McLaren. Comment il s'appelle?
Blanquist.
Je viens de rentrer chez McLaren.
Non,
c'est pas McLaren.
Parce que lui, il va succéder à son. Bah, même... Il va même pas succéder okay. à son père. Qui était champion de rallye et là il est en monoplace donc.
C'est Magnussen.
Qui lui succéderait à son père mais qui pas 52 ans après.
Oui c'est alors 52.
Et je vous rappelle qu'il succède à son grand-père.
60 ans après t'as dit.
52.
52.
La dernière fois et la seule fois d'ailleurs c'était en 1960. Non, mais c'est bien lié à un pilote de Formule 1 en 2002.
Mais il roule actuellement. Il pilote là.
Actuellement il pilote pas.
C'est Edge Foyt 12.
Son grand-père, t'es joué à quoi?
Son grand-père, il est très connu.
Il est pas très connu, mais.
Ouais, mais il le succède à quoi? Dans quoi?
Il va lui succéder dans le même truc. Bah, c'est à vous de trouver dans quoi il va lui succéder.
C'est au Mans?
C'est au Mans, oui.
C'est au Mans.
Ah, c'est pas Nelson.
Non, Nelson Piquet, il prend les murs, lui. Il reprend pas.
Démonier? C'est pas
non.
Mansell? Mais non, Mansell, il a des fils.
Mansell qui succéderait à son grand-père.
Non, l'inverse.
Ah, il va succéder. C'est pas un pilote qui va succéder par rapport au prochain Mans?
C'est-à-dire que, grosso modo, c'est un pilote dont le grand-père a participé au Mans en 1960. D'ailleurs, ce n'est pas le seul membre de la famille qui a participé au Mans.
Ah,
c'est Démonil, le fils de Démonil.
Non. Allez, Eric.
C'est Bourdet. Pas Bouimi?
Non, c'est pas Bourdet. Vas-y, Cédric.
Bourdet.
Alors, c'est pas Bourdet.
Pas Bouimi, c'est pas Bourdet.
C'est pas Bouimi, t'es sûr?
Bouimi, c'est Bouimi.
C'est Bouimi. Qui va succéder au Mans 52 ans après son grand-père qui s'appelait Georges Gachnong.
Gongchang, non, parce que c'est sa cousine qui voilà. S'appelle Natacha Gongchang.
Gachnong. Et donc voilà, sa cousine a fait Le Mans l'année dernière, je crois d'ailleurs. Et donc Buemi va succéder à son grand-père 52 ans après, tout comme sa cousine lui a succédé 51 ans après, aux 24 heures du Mans cette saison avec
Toyota.
Toyota.
Et donc, il n'y a qu'un qui suit, hein, ça va pas. Ça,
ça nous fait 3 points pour Cédric. Je veux pas dire les mecs, mais ça commence à sortir mauvais. Puisque ça nous fait 15 points pour Cédric, 6 points et demi pour Eric et 7 points et demi pour Gus Gus. Et il nous reste exactement 9 points à partager. Enfin, 2 points plus ceux que je vais vous prendre.
Attends, si je casse bien, je suis en avance le championnat, c'est bon.
Oui. Non, pas. Là, théoriquement, si tu réponds bon à la prochaine question, tu es
si tu gères bien.
Ah, je vais faire comme BTS, si je gagne pas là, je gagne l'autre.
Et je dirais même, si tu ne réponds pas aux deux prochaines questions et que je prends les points à la dernière, t'es vainqueur.
Eric, il faut qu'on fasse un pacte.
à l'avantage de qui?
Oh bah au hasard, je sais pas, de celui qui est mieux placé des deux.
Te laisse pas faire, Eric.
Non.
Donc Bumi, hein, qui a quitté, bien malgré lui, Toro Rosso.
Ouais, bien malgré lui.
Il a refusé aussi.
Il est venu le matin dans le simulateur en disant bon, je vais travailler. Et puis les mecs lui ont dit écoute, Seb, on peut te parler 30 secondes.
Bah, le simulateur, il y va quand même, puisqu'il est pilote des 7 ans. Voilà, Red
oui.
Bull, quand même.
C'est celui qui a le mieux digéré, hein, parce que Albert Suary, il a eu. J'ai lu une citation de lui où il était pas très content.
Ça se comprend.
Il a pas gardé un tour.
Je crois qu'il tire encore la gueule. Hein.
Oh, il est DJ. Hein.
Puis c'est bien, Bumi Arbon. Il est devant.
Et il a une grosse conversion dans la musique.
Ouais. Et bientôt, il y aura Lewis qui va aller avec lui, parce que Lewis, il a été surpris dans un studio de West London où il est parti enregistrer juste pour s'amuser des titres R&B.
Sur les consoles, ouais. Les conseils de Nicole.
Ouais.
Mon Dieu.
Yo, je m'appelle Lewis, sans clou ni vis, je
casse les voitures.
Je le vois bien envoyer un SMS à Nicole. Tu crois que je peux faire de la musique, lol?
Ça fait beaucoup parler là au mois de décembre l'éviction d'Algar Suarez Buemi pour remplacer par Ricciardo et Vergne. Qu'est-ce que vous en pensez au-delà du simple fait qu'on est content bien sûr de voir Vergne, mais bon.
Dans la logique de la politique de Toro Rosso de trouver le prochain potentiel champion du monde pour Red Bull. Ils ont eu 2 ans et demi respectivement et 3 ans pour démontrer qu'ils avaient les épaules pour être champions. Et ce qu'ils apparemment n'ont pas fait, ils ont démontré que c'était des bons pilotes de Formule 1, mais pas forcément le pilote qui sera capable demain de battre un Alonso ou un Hamilton dans une course au titre. Donc c'est logique qu'ils renouvellent l'expérience avec des nouveaux pilotes.
Je suis d'accord avec lui.
De toute façon, c'est la politique de Red Bull.
Vas-y, Eric.
Moi, je dis, c'est la politique. Hein, on sait que chez Toro Rosso, c'est comme ça. Et puis voilà, quoi. Je veux dire que Buemi et Aguilera, ils le savaient. Hein.
Mais j'ai même envie de dire, pour des débutants, qu'on leur laisse 2 ans et demi le temps de s'exprimer, comme là, on va laisser à Vergne. C'est quand même mieux que de voir des mecs qui sont partis sur le carreau, qui ont ramené du pognon. Et enfin, je pense par exemple à D'Ambrosio, par exemple, qui a ramené du pognon et qu'au bout d'un an, on lui dit, bah écoute, ciao, bye bye, on t'a pris ton blé, on te laisse pas le temps. Voilà. Alors après, je comprends aussi la position des équipes comme Marussia, mais là, on a une équipe qui peut au moins laisser le temps. C'est ce que souligne d'ailleurs Giancarlo Minardi dans ses déclarations sur l'Italie. Il dit, ce qui manque en Formule 1, ce sont des équipes qui laissent le temps aux pilotes d'apprendre. Une charge aujourd'hui qu'on a quand même beaucoup dévolue au GP2. Voilà. Et maintenant, on demande aux mecs de venir du GP2 ou de venir prêt à travailler. Voilà. Là, au moins, on a une équipe qui permet de faire la transition. Après, c'est à eux de convertir aussi. Hein.
Ouais, bon, après, de toute façon, il y a aussi le fait que, bon, à l'heure des charges, je dirais que la voiture Toro Rosso était pas non plus terrible ces 2 dernières années, quoi.
Ah, elle a bien progressé sur la fin de saison, quand même.
Mais ils avaient une bonne voiture aux essais. Non, c'est ça le truc, c'est qu'ils avaient une bonne voiture aux essais, puis ils ont eu, jusqu'au mois de juillet-août, jusqu'à la trêve estivale, ils ont eu du mal avec cette voiture. Comme quoi, faut jamais se fier des essais privés. Et ça, qu'ils sont revenus sur la fin de saison avec une voiture qui était bien meilleure, avec surtout un Buemi et un Albert Suary qui ont dû sentir la faux juste au-dessus de leur nuque.
Ah, ils avaient le mort aux dents.
Et qui se sont dit, on va peut-être se sortir un peu les doigts du cul parce que ça commence à sentir aussi.
Sur les perfs en essai de la Toro Rosso, il y a des gens qui développent des théories du complot comme quoi Red Bull, il leur dirait soyez pas trop rapide quand même, ne venez pas nous causer des soucis, restez un peu bien loin.
Ah, on se rappelle notamment de la. Comment ça s'appelle de la. la saison où Toro Rosso, avec Vettel, avait fini plus fort que Red Bull.
Et Bourdais, surtout.
C'est ce qu'on a revu en Corée, quoi, quand t'as Gasperi qui résiste pendant deux tours aux essais à Vettel, et que derrière, t'as Helmut Marko qui dit « Tu vois la porte, là ?» Eh ben, à la fin du Grand Prix, tu vas...
Grosse engueulade que certains disent, ça a contribué. Bon, il n'y a sans doute pas que ça, mais...
Bah oui, heureusement qu'il a fait une bonne course derrière en Corée, ça lui a permis de sauver un peu les meubles. Ou bien de garder sa place jusqu'à la fin de saison. Mais...
Oui, voilà.
Et d'ailleurs, on a appris il n'y a pas longtemps que ce qu'a déclaré Red Bull, c'est que pour eux, la priorité, c'était de trouver un baquet à Vergne. Donc, comme ils n'ont pas trouvé de baquet, bah, ils ont pris Vergne chez Toro Rosso. Et que l'idée originale, l'idée de départ, c'était prendre Ricciardo et sans doute garder Buemi et trouver un baquet, sans doute, chez Marussia ou chez HRT pour Vergne. Puis qu'ils n'ont pas trouvé, donc ils ont préféré changer leurs deux pilotes.
Mmh. Ce qui n'est pas une mauvaise chose pour Vergne.
Il y a du bol, Vergne.
Oui, bah oui, non, mais de toute façon, l'AF1, on sait qu'il. C'est ça, hein, il faut aussi avoir de la chance. Hein.
Tout à fait. On passe à l'avant-dernière question, messieurs.
Très bien.
Pour deux points.
Ouais. Donc, pour deux points, pour quelle raison a-t-on cité le nom de Bandeirantes ?
C'est de l'espagnol ?
Ce n'est pas de l'espagnol.
Mais... Du portugais, alors ?
Du portugais, oui.
C'est du portugais.
Ça, je suis sûr, c'est un rapport avec Massa. Ça, c'est du portugais, ça.
Ça pourrait, à l'avenir.
C'est des gens qui portent un drapeau?
Non.
Non, je pense pas.
Mais c'est bien pensé.
Je suis sûr, c'est un rapport avec Massa.
Est-ce que les Bandeirantes, c'est des gens qui militent pour quelque chose? C'est un rassemblement de militants?
Non, c'est pas...
Enfin, pas de militants politiques.
C'est pas des gens qui militent, mais c'est des gens qui soutiennent une cause, on dira.
Les gens qui veulent qu'on autorise les drapeaux à la fin d'une course, les drapeaux nationaux?
Non.
Parce que bandera en espagnol, ça veut dire drapeau. Donc ouais. ça, c'est...
Mais c'est du portugais.
Ouais, c'est à peu près pareil. Hein.
Ouais, c'est
un portugais qui te dit ça. Donc.
C'est un rapport direct avec un pilote ou pas?
Oui.
Oui, c'est un rapport avec un pilote.
C'est non.
Non.
C'est bah, quelqu'un Barrichello. Qui devrait être porte-drapeau pour les Jeux Olympiques?
Non.
Barrichello.
C'est Barrichello, oui. Alors?
C'est supporter en IndyCar?
Non. Bah, d'une certaine manière.
Quoique.
Ah, mais non, c'est la chaîne de télé où passera l'IndyCar et qui serait son sponsor là-bas.
Voilà, bravo, c'est le diffuseur IndyCar qui pourrait effectivement soutenir Rubens Barrichello qui faisait des essais cette semaine à Sonoma. Rubens Barrichello qui envisage une reconversion en IndyCar et qui a donc bien mérité son SAV d'or du jury, hein, le jury qui respire.
Donc visiblement pour une saison sur les pistes routières et urbaines, plus les 500 miles.
Voilà. Et ils seraient toujours en cours de négociation pour les ovales.
Avec sa femme.
Voilà, oui, c'est ça. Je pense que c'est surtout...
Je veux pas qu'elle fasse des ovales.
Parce que Rubens avait promis à sa femme qu'il n'irait pas en IndyCar et qu'il se consacrerait un peu plus à sa famille cette saison.
Encore des mots, toujours des mots. Non, je ne suis pas militant du Front National.
Donc voilà, vous Rubens, est-ce que vous êtes triste? Parce qu'il y en a qui sont tristes. Enfin, c'est surtout pour voir qui on lui a préféré. Certains sont tristes.
Oui.
Il faut lui préférer Senna.
Un monsieur 14 millions, s'il te plaît.
ce mec, son nom lui suffit plus. Il faut en plus qu'il ramène du blé.
Moi, je pense sincèrement que Williams aurait dû conserver Barrichello encore une année, quoi. Du moins pour aider le développement de la voiture.
Par rapport au moteur Renault. Ouais.
C'était ça où il coulait, je pense. Quand tu fais appel à deux pilotes payants, c'est que vraiment, t'es obligé de ramener des fonds pour pouvoir survivre. Je pense que je vois plus de choses comme ça. Je suis un peu triste que Barrichello soit pas là, mais malheureusement, c'est un peu le jeu des écuries qui sont un peu au fond de tableau et qui doivent remonter. Quoi.
D'ailleurs, Barrichello a donné une interview en disant « J'en souhaite bonne chance pour développer la voiture. » Oui, effectivement. Avec Maldonado et Senna, voilà, ils sont bien servis pour le moment.
Non, puis l'IndyCar, c'est intéressant comme reconversion, quand même.
Ah bah, c'est à voir.
Il va nous donner envie de la regarder, parce qu'en IndyCar, attends, ouais. Avec quoi qu'on parle d'une grève de pilote en IndyCar, mais avec...
Ah bon
oui.
En plus, s'il arrive, il fait qu'il est aussi rapide que son pote.
Il est très content. Il est avec, c'est ce qu'a dit, comment s'appelle, Kalkoven, il a dit, s'il a cet effet-là sur Canaan, il faut qu'on lui trouve un baquet, parce que... Voilà, c'est tous ces deux potes, on se rappelle qu'ils avaient échangé leur casque pour un Grand Prix il y a quelques années. À Monaco et au 500 miles d'Indianapolis.
Non, puis c'est vrai que ses premiers essais, ça a vraiment été une espèce de coup de foudre entre Barrichello et l'équipe.
Ouais.
Parce que il a fait les tours, ça s'est super bien passé, super bon feedback, et tout de suite, dis Rubens, cette année,
tu fais quelque chose.
Tu fais quelque chose.
Alors qu'à l'origine, hein, KV Racing, ils devaient prendre, donc, ils ont déjà Canaan, ils étaient en négociation déjà bien avancée avec Edgy Viso, un Colombien, et ils voulaient prendre un jeune de l'Indy Light, je crois. sauf que apparemment,
ne va pas plus loin.
Rubens s'est passé par là. Je crois que Rubens va un petit peu se venger de ce qu'on lui a fait en Formule 1 en prenant la place d'un jeune en IndyCar. Et il retrouverait Sébastien Bourdais quand même, hein, qui fera la saison complète lui. Sauf oui. Il y a une course qui se déroule pendant les 24 heures du Mans où là il sera aux 24 heures du Mans.
À Milwaukee.
Voilà. Bon bah ça nous fait 7 points et demi, non 9 points et demi pour Gus Gus. Et donc plus qu'une question et un challenge. Et cette question, messieurs, pour deux points supplémentaires, il s'agit de compléter une citation. Et la citation est la suivante. Plusieurs pilotes rêvent de courir pour Ferrari un jour, c'est...
Normal.
Non. Ben oui, mais non. Non, je répète, plusieurs pilotes rêvent de courir pour Ferrari un jour, c'est...
Une fatalité.
Non.
C'est un cycle.
Non.
C'est
Il faut payer.
C'est vrai, mais non. Il va avoir plein de sponsors quand même en Ferrari parce qu'ils ont déjà s'entendaire. Tel mec s'est dit bah, nous, on aimerait bien que Perez y aille. Ça sous-entend que tel mec pourrait aussi y aller avec. Bon, ça...
C'est la fatalité.
Non.
Il dit déjà.
Ah, ok, d'accord. Pardon.
Pas de soucis.
Il manque un mot, je
C'est le juste cours des choses.
C'est plus dans cette idée-là, oui. Enfin, c'est pas dans cette idée-là, mais c'est pas juste un mot qui manque. Il manque plusieurs mots.
Voilà.
Plusieurs pilotes rêvent de courir pour Ferrari un jour, c'est... Et c'est quelqu'un, c'est pas anodin. C'est pas anodin si cette personne nous le dit.
C'est Whitmarsh?
Ça serait magnifique.
Mais pas nous.
Ça rentre pas parce que ça ferait c'est, mais pas nous. La phrase, c'est plusieurs pilotes rêvent de courir pour Ferrari un jour, c'est...
Mais pas les nôtres.
C'est pas notre cas.
Mais pas les nôtres.
Non, c'est pas ça du tout.
C'est dommage.
C'est vrai, mais non.
Mais pas ceux-là.
Non, au contraire, c'est quelqu'un qui, quand il dit, ne l'écarte pas d'y aller.
C'est Vettel.
Oui, ben, ça, Vettel, il écarte jamais rien. Avec Ferrari. Mais c'est pas Vettel.
Ecclestone.
C'est pas Ecclestone.
C'est le dernier question. Horner.
Non. Donc, je vais rajouter un mot. Plusieurs pilotes rêvent de courir pour Ferrari un jour, c'est là.
C'est là.
Qui ça?
C'est là.
Plusieurs personnes rêvent de courir pour Ferrari un jour, c'est là.
Légende qui parle.
Non. Mais ça pourrait le faire.
C'est la folie.
Non.
Mais c'est dans cette idée-là. C'est quelqu'un qui trouve que c'est. Enfin, que.
Qui trouve que aller chez Ferrari, c'est quelque chose d'envisageable et c'est quelque chose qui peut paraître naturel, oui.
C'est l'extase?
Non. Et encore plus de mots derrière.
C'est Kubica qui dit ça?
Non. Vous étiez pas loin tout à l'heure, hein. Vous tourniez un petit peu autour de cette... C'est vrai que si vous trouvez la personne qui l'a dit, vous allez assez facilement trouver la fin.
Il est vivant, celui qui l'a dit ça?
C'est l'aboutissement d'une carrière.
Alors, il est vivant et c'est pas l'aboutissement d'une carrière. Même si dans son cas, ça pourrait l'être.
C'est le rêve de tout pilote.
Ah, ça, il l'a déjà dit. C'est le rêve de tout pilote d'aller chez Ferrari un jour.
Ouais.
C'est alors hop,
c'est vraiment important qu'on trouve le mot juste, les mots
c'est
juste.
La concrétisation
en soi, c'est pas important de trouver les mots justes, mais c'est-à-dire que si vous trouvez l'auteur, vous allez trouver à peu près les mots, et si vous trouvez à peu près les mots, vous allez trouver à peu près l'auteur.
C'est la concrétisation d'une carrière.
Non, parce que dans son cas, il a pas attendu d'aller chez Ferrari. Ma phrase, c'est plusieurs pilotes rêvent de courir pour Ferrari un jour. C'est là.
C'est Schumacher qui a dit ça.
C'est Hamilton qui a dit ça.
Non.
Schumacher
ni Hamilton.
Todd.
Ah non, c'est Vergne.
Ni Vergne, ni Todd.
Non.
Mais non, c'est pas Vergne qui, évidemment. Alors Pérez.
Pas Pérez.
Ou Kobayashi.
Alors j'en rajoute un mot. C'est pas Kobayashi.
C'est pas Bianchi.
Plusieurs pilotes rêvent de courir pour Ferrari un jour. C'est la même chanson.
Ah, c'est Jean-Louis Moncey.
Il aurait dit quoi, Jean-Louis?
Je vois bien finir sa carrière là-bas.
Ouais, je déconne.
C'est la même.
Bah, c'est pas Vettel qui a dit ça?
Non.
C'est un gars de chez Red Bull?
Oui.
Weber?
Non.
Donc c'est pas un pilote alors?
Non.
Ah? Newey, c'est Newey qui a dit ça.
C'est Newey, donc la phrase c'est quoi?
Il a dit quoi?
C'est la même. La même façon de travailler ou quelque chose dans le genre?
Il a dit plusieurs pilotes rêvent de courir pour Ferrari un jour, c'est la même.
Passion qui nous unit.
C'est le même refrain?
Non.
C'est la même façon de travailler?
Non.
C'est la même raison qui pourrait que celle de revenir chez Red Bull, parce que de revenir chez Red Bull, je sens genre. C'est le même défi, quoi.
Non. C'est la même chose.
Alors c'est la même chose.
C'est la même envie qui nous guide.
Non, non. La phrase, c'est plusieurs pilotes rêvent de courir pour Ferrari un jour. C'est la même chose.
Partout. Chez nous.
Non.
Chez nous.
Non.
En Italie.
Non. J'aime bien ce genre de question, je dis.
C'est la même chose qui nous anime.
Il nous anime. Il parle de qui?
Les ingénieurs.
Donc c'est la même chose pour
la famille.
Pour tous les ingénieurs.
Pour tous les ingénieurs. Bravo Gus. La phrase c'est plusieurs pilotes rêvent de courir pour Ferrari un jour. C'est la même chose pour les ingénieurs. Et quand c'est dit par Adrian Newey,
forcément
chez Ferrari ça nous fait sourire. Et donc Gus remonte. On va avoir un final épique.
Attention.
Donc Adrian Newey, hein, ingénieur de génie de chez Red Bull et peut-être un jour de chez Ferrari. L'occasion pour nous de vous poser cette question. Adrian Newey a-t-il recommencé avec la RB8, ce qu'il a fait avec la RB7 et la RB6?
C'est une évolution, il peut pas la merder entre guillemets. Hein.
C'est vrai. Grosso modo, est-ce que pour vous, on va encore avoir une domination Red Bull? Est-ce que ça va être plus serré? Est-ce que Red Bull va se ramasser la gueule?
Ça sera plus serré quand même, je pense.
Moi, je pense que ça sera plus serré parce que justement, c'est une évolution et je pense que dans le cycle d'une Formule 1, ils arrivent au bout de l'évolution de la voiture. Quoi.
Ouais.
Donc, le problème, c'est qu'on dit ça un peu chaque année, quoi. Enfin, c'est, parce qu'au final, non, depuis la RB5. Ça a pas
vraiment. Non, c'est pas vrai. La progression, généralement, une F1, elle arrive au top au bout de 3 ans, un truc comme ça. Quoi. Enfin, la conception de la voiture, c'est au bout de 3 ans qu'elle arrive à arriver au top. Donc là, ils y étaient l'année dernière. Je pense qu'elle va stagner, que les autres, par contre, vont revenir un peu dessus.
Bah, je dirais surtout que c'est plus qu'une stagnation, c'est que par rapport aux modifications du règlement qui ont été apportées, c'est eux qui ont le plus à perdre. Alors après, est-ce qu'ils vont perdre tout ce qu'on leur dit qu'ils perdront? Non, mais c'est vrai que ce qui est une chose qui est sûre, c'est que c'était eux qui maîtrisaient le mieux les échappements, et qu'aujourd'hui, ce sont eux qui, donc, par conséquent, sont le plus pénalisés. Maintenant, on a vu qu'on parle déjà d'une sorte de double diffuseur sur la Mercedes au niveau de la lumière arrière.
Ouais, on en fait des caisses un peu sur
voilà, la Mercedes, je pense que j'ai l'impression que la Mercedes, tout le monde se dit « Ah, la Mercedes, tout le monde voulait la voir révolutionnaire. » Ils l'ont vu arriver en disant « Mais en fait, elle ressemble un peu à la W02. » Et donc, tout le monde se dit « Mais elle doit forcément avoir quelque chose de particulier. » Donc,
on voit rien. Juste beaucoup plus propre. Au final, elle est juste beaucoup plus propre, j'ai l'impression, que la W02.
Oui, en même temps, elle est neuve, donc ils l'ont peut-être poli un petit peu. Et sinon, vous pensez qu'il y a une écurie... Attends, je me tire le bas dans le pied. Vous pensez qu'il y a une écurie qui va se casser la gueule cette saison?
Non.
Ferrari, c'est sûr.
Non, Ferrari, j'y croirai toujours. Ils ont trouvé une direction, c'est rassurant, après 280 tours par
contre. C'est Massa qui dit ça.
Oui. Voilà, justement, Massa qui trouve la direction, c'est intéressant. Ça fait quand même un petit peu 2 ans qu'il roule dans tous les sens, là, c'est bien.
Ils ont dit qu'il y avait Hamilton devant lui.
Oui.
Moi, je sais pas, moi, j'arriverai encore à tirer vraiment d'enseignement des essais, donc... Je sais pas trop.
Et moi, c'est le constat que je me fais en faisant les lives. Là, on a fait 4 journées cette semaine, plus les 3 journées de Jerez. C'est un constat, souvent, les gens essaient d'interpréter. Et à chaque fois, nous, comme on suit les données, on leur dit à chaque fois, attention, il y a ci, il y a ça. Et du coup, moi, ça m'a permis de me rendre compte vraiment à quel point, vraiment, les essais, mais on peut strictement rien en tirer, quoi. On peut tirer des choses en voyant, effectivement, le nombre de tours parcourus, ce genre de choses qui nous donnent de bons indices. Est-ce qu'ils ont déjà fait des simulations de course ou pas? Je crois que c'est toi qui as mis un commentaire, d'ailleurs, Gus, sur le site en disant, quand on voit Red Bull, ils sont déjà en train de faire des simulations de course, enfin, des simulations de week-end
même.
Entiers, donc c'est vraiment qu'ils sont satisfaits de la voiture. Mais c'est qu'en dehors de ça, sur les informations sur les pneus, on n'a pas le carburant, les pneus, on les a de temps en temps. C'est très compliqué de pouvoir tirer le moindre enseignement, mais c'est ce qui est le plus passionnant, je trouve.
Ouais, de toute façon, même les pilotes le disent, quoi. Je veux dire que la seule vérité, c'est les essais à Melbourne. Hein.
Ouais.
Oui. Et encore, juste les qualifs, peut-être même. Tu peux encore cacher ton jeu, en plus, jusqu'à les essais.
C'est vrai que HRT, ils ont l'habitude de rater les premiers essais.
Et sinon, on se lance chacun qui est champion constructeur et champion pilote à la fin de la saison.
Non,
allez,
non, non,
on s'aventure, on est obligé. Hein,
allez, Lotus.
Ah, si, allez.
Alors, Lotus pour Cédric avec, en pilote.
Bah, je sais pas, parce que je pense que. Enfin, c'est mon avis, hein, mais je pense que Romain et Kimi peuvent jouer. Si la voiture marche bien, pourquoi pas jouer. Mais bon, ça engage que moi.
Gus Gus.
Moi, je vois en pilote Vettel et en écurie McLaren.
Eric.
Et moi, en équipe McLaren et en pilote Button.
Ok, c'est dit.
Vettel et Red Bull, mais dans le dernier Grand Prix de la saison, après une saison super serrée.
Ok. Et moi,
oh, le vœu pieux.
Et moi, Alonso et Ferrari.
Et il y croit même pas.
Oui, j'y crois. Parce que la voiture va tout détruire la semaine prochaine, vous allez voir.
Elle va perdre du carbone.
C'est pas la voiture.
Et donc, messieurs, vous n'êtes plus que deux en lice pour la place de Melbourne. Puisque nous avons actuellement 6,5 points pour Eric, 11,5 points pour Gus Gus et 15 points pour Cédric. Mais attention, puisque je suis là maintenant. Oui. Et c'est le dernier challenge, je vais encore vous piquer des points, ça m'énerve.
Ah, c'est lui qui peut choisir en fait. Il peut choisir qui sera le premier.
Oui, voilà.
Tu te rends compte que si tu as les 4, c'est-à-dire que virtuellement, t'aurais marqué 20 points.
Oui, et je pourrais participer à mes points.
Bah, tu feras à la fois l'auditeur et le présentateur.
Voilà.
Voilà. Et donc, pour ce dernier challenge de l'émission, le chiffre
ça, c'est un...
est 538.
Combien ?
Je répète, 538.
C'est le nom de code de la prochaine Ferrari de route.
Non.
Elle a un moteur 53 cylindres et 8 soupapes par cylindre.
C'est un nombre de kilomètres, un nombre de grammes de...
Non.
C'est un numéro d'album, ça, non ?
Non plus.
Un nombre de personnes ?
C'est une dure.
C'est un nombre de personnes.
Un nombre de personnes ?
Le nombre de personnes qui sont mortes lors du naufrage, lors de la fin du monde, du canot du capitaine du Titanic.
Pendant les Jeux Olympiques.
Pendant les Jeux Olympiques.
Non.
Les invités. Ça
a un rapport avec le sport ?
Non.
La politique ?
Ça a un rapport avec la politique.
C'est le nombre de signatures qu'a l'UMP ?
Non, je pense même qu'ils doivent en avoir beaucoup plus que ça.
C'est le nombre de députés qu'on va élire ?
Non.
Politique française ou européenne ou mondiale ?
Manifestants, 568 manifestants.
Ah, les grands électeurs aux États-Unis.
Oui !
Ah, merde ! Yes ! Merde ! J'en casse ma jambe.
Oui, parce qu'il faut rappeler que les Américains ne votent pas directement pour leur président. C'est un héritage de la naissance.
Là, je suis un échec.
On dit que les pères fondateurs en fait se méfiaient un peu de la masse, de l'opinion générale, et donc ils avaient créé un peu ce sas entre guillemets entre l'élection du président et l'élection populaire. Et donc 538 en fait, ça correspond au... donc c'est un nombre de grands électeurs qui sont élus lors de l'élection présidentielle. En fait, c'est 100 qui correspond aux 100 membres du Sénat et 435 qui en fait correspondent aux membres du Chambre de la représentants. Et il y en a 3 pour le district de Columbia, là où est Washington. Et donc c'est divisé par état hein, parce que c'est un état fédéral. La Californie dispose de 55 votes, donc 10% à elle toute seule. Et en fait, les États les moins peuplés ne représentent que 3 délégués hein, pour le vote des États-Unis. Donc ça modèle directement la façon dont ont lieu les élections aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, il y a un complet décalage entre ce qu'on appelle le vote populaire et le vote des grands électeurs.
On se rappelle Bush, là,
Alors, il y a eu 3 cas, en effet, où le vainqueur final n'a pas eu la majorité des votes populaires. En effet, il y a eu Bush en 2000. Non, les deux autres cas sont beaucoup plus anciens, puisqu'il y a eu 1888 Benjamin Harrison et en 1876 Rutherford Hayes. Des présidents qui sont pas très connus, en tout cas en dehors des États-Unis. Faut savoir par exemple que Nixon, il a été élu avec 95% des grands électeurs, alors qu'il avait remporté que 60% des votes populaires. Et théoriquement, un candidat pourrait être élu avec moins de 30% des votes populaires.
Eh ben.
Parce qu'en fait, la subtilité en plus, c'est qu'ils ont un système qui s'appelle le winner takes all. C'est-à-dire que si tu remportes l'État, tu remportes tous les membres de l'État.
Électeurs.
Voilà, tous les grands électeurs de l'État. Alors, c'est quelque chose qu'on voit vachement bien dans cette merveilleuse série télé qui est The West Wing.
Oui.
Qui permet de comprendre comment marche la politique américaine. Donc voilà, ça fait partie des grands moments aussi de 2012, hein, les élections. Donc aux États-Unis, mais d'autres grands pays hein, vont avoir des élections, hein, parce que ne serait-ce parmi les membres du pays du Conseil de sécurité de l'ONU, bah la France, bon bah ça on le sait bien, il y a les élections, les États-Unis, la Russie, bon même si bon légalement il y aura des élections, il paraît qu'il sera peut-être plus dès le premier tour. Hein.
Il y a des élections, mais il y a un vainqueur.
Voilà.
Avant même l'élection.
Alors la Chine, bon, il n'y aura pas d'élection, hein, mais il faut savoir qu'en octobre, ils vont changer de dirigeant. Hein, ça ne sera plus le fameux Hu Jintao, il devrait être remplacé par Xi Jinping.
Le mec.
Hein, Xi Jinping, c'est toi ?
Xi Jinping, oui. Alors qu'il y a une particularité, c'est sa femme, puisque sa femme homme. Est une chanteuse. Non, alors, c'est une chanteuse en Chine. Donc bon, ça, vous allez me dire, on sait ce que c'est en France, hein. Mais elle est à la fois chanteuse et générale de l'armée populaire chinoise. Tu imagines, Oscar Labruni était générale de l'armée française.
Oh la vache, merde.
Les gens au fond de la caserne, ils l'entendraient même pas.
Alors quelqu'un m'a dit que j'envahis la Libye.
Je demande que ce soit coupé au montage.
Non.
Alors, d'autres pays hein, vont vivre des élections. Ce week-end même, là, on enregistre, il y a le Sénégal. On en a beaucoup parlé parce qu'on ne sait pas trop. Enfin, quand vous écouterez l'émission, il y aura peut-être eu des choses qui se sont passées au Sénégal. Sinon, il y a des pays quand même importants comme le Mexique. La Corée du Sud qui vont procéder à des élections présidentielles, le Venezuela, bon, là encore c'est pareil, hein. C'est oui normalement ils organisent des élections, on verra. Hein.
Sinon Maldonado est bien dans la merde.
Oui en plus, oui c'est une élection qui peut avoir une influence sur le poste de Maldonado. En Iran et en Grèce, il y aura des élections législatives qui seront observées aussi,
oui.
Bon pour des raisons différentes mais.
Oui, voilà.
Et enfin, bah, y a des pays comme la Libye et l'Égypte hein, qui, suite aux événements de l'an dernier aussi, vont procéder à des élections. Donc, ça va être très observé, là encore, comme on dit, par les observateurs internationaux qui vont dire « Ah, c'est pas bien, il y a eu de la tricherie », mais qui ne feront rien, bien évidemment.
Généralement, voilà, c'est ce qu'ils font.
Oui, voilà. Regarde, ils font « Ah là là, c'est pas bien, c'est pas normal qu'il y ait eu 140% de participation législative en Russie, mais on dit rien.
» Et bien sûr, en 2012, ce sera...
La fin du monde.
Mais non, ce sera la nouvelle saison du championnat du monde de Formule 1.
Oui. Oui.
À suivre chaque semaine avec le service après-vente de la F1.
Oui.
Ouais, vous avez de la chance quand même.
Pour le stade.
Et donc, alors non seulement vous allez le retrouver, je crois, dans deux semaines, je crois, pour le SAV, puisqu'il fait partie de nos chroniqueurs, mais il vient de gagner sa place.
Il nous a fait quand même une Suzuki.
Voilà, au finish.
Mis, là, hein,
il a doublé Cédric dans la dernière ligne droite. Voilà. Il s'est fait son Raikkonen. Puisqu'il s'impose avec 16,5 points devant Cédric, 15 points, et devant Eric, 6,5 points. Alors la question,
mais si je peux...
Gus, est-ce que tu seras là ou pas?
Moi, je peux être là, mais je propose à Cédric de prendre ma place vu qu'on va m'entendre un peu beaucoup cette année. Quoi.
Donc Cédric.
Bah, s'il le laisse, ça me ferait plaisir.
Bah, voilà, Cédric, tu seras avec nous en.
De toute façon, même s'il l'avait pris, j'aurais été là pour la Malaisie.
Voilà. Donc... Oui, c'est vrai, c'est toi qui as réservé pour la Malaisie aussi.
Arrêtez, après, les gens vont croire que ça sert à rien, ce genre d'émission.
donc voilà, on vous remercie, messieurs, de votre participation.
Je te remercie, toi, ainsi que Jimmy. Ouais,
on remercie, Eric qui appelle de la Réunion quand même.
Oui.
Hein qui est pas allé manifester aujourd'hui.
Non.
Bah non,
il va le faire demain.
On va te dénoncer d'ailleurs. Allez.
T'es pas fait, vas-y.
Ça, Eric en train de prendre l'apéro là. Lâche ton père.
Ça fait 3 heures là.
3 heures d'apéro.
Et donc, bien évidemment, on en profite pour vous rappeler que. Si on a une émission qui sera avec des chroniqueurs qui se relayeront tout au long de l'année, toutes les émissions que nous ferons après les Grands Prix se feront avec l'un d'entre vous, un qui suffit
voilà.
Nous contacter hein, via l'adresse que je dise pas de bêtises.
C'est bon, il y a encore des places.
@yahoo.fr, donc il y aura des places. Ce sera enregistré quasiment tout le temps le mardi soir, sauf à une exception. Voilà, donc vous nous envoyez un mail et puis, nous, on essaiera de vous trouver une place et compagnie en donnant la priorité à ceux qui n'y ont jamais participé. Donc, bien évidemment, Eric, hein, tu pourras participer et postuler pour quand tu veux, sauf pour l'Australie.
l'ai déjà pris.
Voilà.
Et pour la Malaisie.
Et on en profite, vu qu'on parle de l'Australie, hein, vous savez qu'il y a un rendez-vous à la fin de chaque émission. Un rendez-vous obligatoire qui s'appelle le concours Top Pas Position. Et pour le concours Top Pas Position, nous allons vous soumettre une question à laquelle vous pourrez nous envoyer votre réponse. Et une question sur le Grand Prix de la Malaisie. Qui sera
parce qu'en 2012, c'est toujours aussi compliqué, voilà. Hein, le concours Top Pas Position. Bon, ça, on l'a pas changé. Hein.
Et donc, nous vous rappelons quand même qu'il y a deux ans, c'est Fab, je crois. Non, c'est Fab qui avait remporté. On fait un tirage au sort en fin de saison. Fab avait remporté le dossier Michel Vaillant consacré à Ayrton Senna, je crois. Et cette année, la biographie de Lewis Hamilton par Lionel Froissart.
Dans les roues de Lewis Hamilton.
Voilà, dans les roues de Lewis Hamilton. Shinji, une biographie qui a été très appréciée par le vainqueur Wonderwall.
D'accord. C'est bien.
Et donc, si vous voulez gagner, et participer et gagner un petit ticket pour gagner en fin de saison un prix dont on ne sait pas encore de quoi il s'agira, il vous suffit de répondre à la question suivante. Combien de titres de champion du monde obtient-on en cumulant ceux de tous les pilotes ayant une tribune à leur nom sur le circuit de Melbourne? Voilà. Vous allez voir, c'est pas difficile à trouver, faut juste aller chercher au bon endroit, hein, donc voilà, réfléchissez un petit peu. Voilà. Et pour répondre, on a changé d'adresse, c'est une adresse spécifique rien que pour le concours, c'est concours@savf1.fr, concours concours@savf1.fr. Voilà, vous avez donc jusqu'au mardi après le Grand Prix d'Australie pour répondre. Voilà.
J'imagine que ces infos, on va les retrouver sur le site.
Sans doute.
Sans doute. On va télécharger l'émission, on la réécoute bien.
Dans les deux prochaines émissions avant le Grand Prix d'Australie, de toute façon, on vous rappellera la question concours et on vous rappellera les modalités pour participer. On en profite aussi pour vous dire que cette année, on va inaugurer une nouvelle rubrique dans notre émission avec les chroniqueurs qui s'appellera le répondeur du service après-vente de la F1. Où vous pourrez nous poser vos questions sur la F1 à laquelle vous souhaitez qu'on réponde, voilà, n'importe quelle question. Nous ferons un tri et nous y répondrons lors des émissions à partir de la semaine prochaine. Voilà. Et pour nous poser vos questions, c'est répondeur@savf1.fr. Voilà. Messieurs, nous vous remercions.
Merci à vous.
Merci. Mais on vous en prie, on vous remercie aussi.
On espère que vous avez passé un bon moment avec nous, un bon dimanche après-midi, puisque nous enregistrons juste avant les Daytona 500. Ouais.
Ça oui, d'ailleurs, faut y aller, il est 19h, merci, au revoir.
Et puis, bonne saison à vous.
Ouais.
Merci. Et puis,
bonne saison à tous.
Il n'y a pas de proverbe, mais on va finir comme ça, Shinji.
Il n'y a pas de proverbe. Oh, ce soulagement.
Oh non, c'est bon.
Allez, Shinji. Salut.
Salut.
Allez, à plus.
Salut.
Au revoir.